Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un humoriste de talent, un auteur, mais aussi le co-créateur et co-animateur du Gong Show. Je reçois Anthony Remillard.
Oh, ça me stresse peu. C'est vraiment correct.
J'ai fait trop de recherches pour t'appeler mal par ton nom de famille. Remillard, quand même.
Mais ça s'écrit re, il n'y a pas d'accent aigu à l'écriture, mais pour vrai, à l'oral, ça me dérange pas. Il n'y a pas de stress.
Voilà, ça montre directement le personnage que tu es. Il n'y a pas de souci, appelle-moi comme tu veux.
Oui, oui.
Comment ça va?
Ça va. Ben, ça va. Il fait chaud, là. On est en pleine canicule.
C'est très chaud.
3 jours de canicule de suite. J'ai marché pour m'en venir. J'habite pas trop loin d'ici. Fait que là, j'ai chaud. Mais ça va, j'ai déjà pris 2 douches aujourd'hui pour me rafraîchir. Okay. En fait, ma 2e douche n'était pas prévue. C'est que j'ai fait du lavage, puis quand j'ai ouvert la trappe pour la poussière, il y a un crayon qui est tombé dans la trappe.
Okay.
Puis là, j'étais comme, je veux pas partir la sécheuse d'un coup que, je sais pas, ça pogne en feu ou quoi que ce soit. Là. C'est pas normal qu'il y ait un crayon là-dedans. Fait que j'ai essayé de démonter ma sécheuse.
OK. Une bonne activité quand il fait 35 degrés.
Exact. Mais j'ai pas ouvert la bonne partie. Il a fallu que je remette les pièces en place. Puis là, j'ai fait, ben, j'ai un podcast à venir faire. Fait que je vais reprendre une douche.
OK.
Je vais en prendre une 3e après, sûrement.
Ça va. Merci d'avoir pris une douche pour venir ici.
Mais ça va. Toi, ça va?
Moi, ça va. Je t'avoue que quand j'ai éteint le ventilateur pour éviter le bruit, je me suis inquiété de pouvoir supporter la chaleur.
Ouais.
Parce que je supporte pas bien du tout la chaleur.
OK.
J'ai passé ma journée dans l'air climatisé. Enfin, j'ai travaillé, mais dans l'air climatisé. Donc, c'est un avantage.
Ouais.
Mais on est ici au terminal qui nous accueille, d'ailleurs. Donc, merci beaucoup de nous prêter les locaux. Mais on a éteint le ventilateur pour pouvoir enregistrer ce podcast dans des bonnes qualités de son. Mais on a chaud, un petit peu.
Il y a possibilité à un moment donné, je pense que c'est un pléonasme, mais...
C'est ça.
Ça se peut qu'il y ait un son de ventilateur dans une demi-heure.
Ou,
soyez conscient.
C'est ça. Ou possibilité de 2 humoristes décédés au terminal. C'est l'autre possibilité. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Ben, merci à toi. Je sais que tu as travaillé fort pour ça.
Ouais.
Fait que merci, on n'a jamais travaillé aussi fort pour moi.
Mais est-ce que toi, t'es consommateur de podcasts, que t'en écoutes?
Pas énormément. Vraiment pas. J'ai eu une passe. 5 ans, là, j'avais pris le retard de sous-écoute. Je n'ai écouté beaucoup. Puis à un moment donné, je n'ai écouté quelques autres pour comprendre un peu comment ça fonctionne, voir les différences. Mais au final, j'écoute plus de la musique que des podcasts. Ou même maintenant, si j'écoute des podcasts, ça va plus être des trucs sur audio de Radio-Canada, des trucs reportages où j'écoute beaucoup la radio, en fait. Mais la radio parlée. J'écoute Radio-Canada.
Okay.
Quand je suis dans mon auto, c'est ça que j'écoute, ou de la musique. Très rarement des podcasts.
Et t'écoutes la radio en mode il faut que je me tienne au courant de l'actualité ou plus c'est une habitude, c'est par plaisir?
C'était à la base pour me tenir informé, puis c'est devenu une habitude.
Ok.
Je suis rendu incapable d'écouter d'autres genres de radio que la radio parlée ou justement Radio Can. Même là, des fois, c'est pas toutes les émissions à tous les jours qui sont bonnes. Je suis pas vendu Radio Can, c'est juste que comme source d'information, c'est quand même habituellement critique et juste. C'est ça. J'essaie de me tenir informé, surtout que là, cette année, je travaillais à la radio en Outaouais. Mm-hmm. Je faisais une chronique sur l'actualité. Fait qu'il fallait que je me tienne au courant là, de l'actualité. J'avais pas le choix. Puis je trouve ça important. Là. Mais je suis pas un féru là, des nouvelles et de l'actualité. Okay. Je connais pas tous les sujets de fond en comble, loin de là.
Parce que moi, je sais qu'il faudrait que je m'intéresse à l'actualité et tout ça, mais ça me déprime tellement que j'y arrive pas.
Ouais.
Je crois que si je voulais faire des blagues sur l'actualité, j'y arriverais, probablement en regardant les nouvelles, mais j'aurais envie de me suicider en fin de semaine, je pense.
Parfaitement. D'accord avec toi. Oui, puis je le faisais pour la radio, ça fonctionnait. Parce que c'est un mandat précis, mais des blagues d'actualité sur scène, j'en fais pas parce que justement, du moment où t'as fait de un, elle a été faite 100 fois sur Twitter, puis sur Facebook, puis sur Instagram avant, fait que c'est très difficile, puis que ça reste dans le temps, c'est très rare, là, à moins que ce soit des sujets comme plus gros, là, plus vastes, mettons l'avortement, le port d'armes, quoi que ce soit, là, aller s'informer là-dessus, mais vraiment faire des blagues sur une nouvelle précise. Pas en stand-up. Merci. Pas pour moi, en tout cas.
Ben, moi non plus. On a des ressemblances dans le style, je pense.
Ouais.
Dans le sens où on parle tous les deux de nous.
Ouais.
Essentiellement, je pense que même à 100% de mon côté, toi, il me semble quand même beaucoup.
C'est assez personnel, ouais, oui, mon stand-up. Mais c'est pas juste des anecdotes sur moi. Je parle souvent de moi pour parler de l'être humain.
Oui, mais ton point de départ...
Mon point de départ est moi.
C'est toi, ouais. Ton expérience, il y a quelque chose qui t'est arrivé et t'as envie d'extrapoler autour de ça. Quoi.
Exact. Okay. Mais j'essaie de pas juste m'en tenir à l'événement qui m'est arrivé, mais d'avoir une réflexion là-dessus puis de pousser ça plus loin.
Et je l'ai mentionné dans l'introduction, mais donc t'as créé avec Charles Deschamps le Gong Show, que tu animes chaque mercredi au Bordel Comedy Club, ouais. Un show que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y a en ce moment 78 épisodes disponibles, 78 pour la Belgique. Faut rester...
Bah oui, proche de ses racines.
Bah c'est ça, hein, c'est important. C'est quand je le dis, je fais un... Ah, 78, ça sonne quand même beaucoup mieux.
Ah ouais, oui. T'as pas fait le switch encore?
Ah si, je le fais parce que au travail, parce que moi je travaille dans une boulangerie, je donne les prix tout le temps.
Ouais.
Et donc je suis obligé de dire les chiffres à la québécoise ou à la française parce que sinon les clients ne me comprennent pas. Mais maintenant je le fais naturellement et j'aime pas ça. Quand je naturellement je pense 78, mon cerveau fait ah français. et donc là dans le podcast je suis obligé de dire 78 pour les quelques Belges qui écouteront l'épisode. J'espère.
Je comprends.
Bon, revenons-en donc au Gong Show. Enfin, on va pas parler que des chiffres de la Belgique. le Gong Show, j'y ai participé deux fois. J'ai adoré, ça s'est très bien passé les deux fois, donc merci de ne pas m'avoir gongué.
Et merci à toi d'avoir été bon.
Ouais, avec plaisir. Le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui d'un open mic pendant lequel il y a 5 humoristes qui vont présenter un numéro devant le public et devant 3 membres d'un jury.
Ouais.
Donc il y a toi, Charles Deschamps et un humoriste invité.
Exact.
Le but, c'est de tenir 3 minutes sans se faire gonguer. Et vous vous gonguez si vous trouvez que les blagues sont pas drôles, pas originales, trop classiques, ou il y a un manque de rythme, ou c'est problématique.
C'est 100% ça. En fait, on est au début du projet, ce qu'on voulait, c'était vraiment... On s'attendait à être ultra sévère avec les humoristes, puis si le numéro était pas un 10 sur 10, on allait arrêter le numéro tout de suite. Puis finalement, on s'est rapidement... Je pense, dès le premier show, on s'est ajusté... Pis ça a pas été ça. Aussitôt qu'on est à la place des juges pis qu'on voit le monde sur scène, on tente le pouls du public aussi. On est vraiment comme le regard du public, mais punché. Si on veut, on est à l'aise de parler devant un micro, avec un micro, devant des caméras. Fait que c'est ça, mais c'est très rare qu'on n'ait pas sur la même ligne que le public. À moins que ce soit une blague, justement, qu'on connaisse déjà ou un procédé ultra classique que monsieur, madame, tout le monde ait moins connaissance. Mais... Mm-hmm. Puis aussi, les captations donnent pas toujours justice à ce qui s'est passé en salle.
Ouais, ça atténue un petit peu les rires de ce qu'on entend.
Ouais.
De ce que... Enfin, moi, le premier passage, quand j'étais sur scène, je me suis dit, ah, ça s'est vraiment bien passé. Quand je l'ai réécouté, j'ai fait, je pensais que ça riait plus fort.
Ok.
Par rapport à la captation. Ça rend pas encore assez bien l'ambiance du Gong Show en live. Parce que le Gong Show en live, c'est vraiment puissant. Genre, le public est super chaud.
Ouais, il y a une frénésie en salle complètement fou. Puis de semaine en semaine, je pense en un an, il y a deux shows qui ont moins levé. Parce que tempête de neige, des fois, il y a des trucs dans la journée qui font en sorte que le public, l'énergie passe pas, mais c'est le même pour tous les shows, sauf que on a une très forte moyenne de public très, très cool. Mmh.
Avec des habitués qui ont tous les référents. Il y a même des private jokes maintenant de « Ah, un tel, il est déjà passé, il a déjà
fait... » Ah oui, c'est fou, là. On a fait le Club Soda. Pour ceux qui écoutent en Belgique, c'est une plus grosse salle. Le Bordel, c'est un 100 personnes environ. Mmh. Puis le Club Soda, c'était 530, qui est une salle mythique à Montréal. Puis on l'a fait, c'était rempli. Et il y a un humoriste qui a fait son premier spectacle à vie et qui a fait un personnage qui est dans l'univers d'un autre gars qui a fait le Gang Show, qui a fait un personnage, Lance Banger, de JP Ringuet, et 80% de la salle avait le référent. C'est fou,
c'est fou.
Ça n'a aucun sens.
Vraiment.
Ouais, le public, ça a vraiment créé une communauté. Les gens ont les référents, les gens... Mais même, ça crée un certain danger pour les humoristes qui passent au Gang Show. Il y en a qui pensent que tout le monde connaît le Gang Show. Mais c'est encore très restreint. Puis je pense, même si ça continue à buzzer, puis ça va buzzer encore, je pense pas qu'on a atteint le maximum que le projet peut avoir en visibilité, mais il faut jamais prendre pour acquis que tout le monde a les référents ultra précis ou que les gens te connaissent parce que t'as fait le Gang Show. Là,
oui, c'est dans... ça. Il suffit de tomber sur un public avec un peu moins d'habitués.
C'est ça.
Et le public rit pas. Et quand le public rit pas, ben ça, c'est dur d'enchaîner avec la même confiance que quand le public est éclaté.
Oui. Puis je le dis par rapport au Gang Show, mais c'est la même chose, même si je le fais pas en tant qu'invité, tu sais, j'ai participé à d'autres captations pour des numéros, puis c'est pas parce que tu passes à la télévision que t'es rendu connu, là. 0-0. Tes proches le savent, mais ça ressemble à ça, là. C'est très long avant d'être connu, puis j'en suis pas là. Je commence à avoir une petite différence. Mm-hmm. C'est pas énorme, là. Je peux très bien vivre ma vie anonymement, là. Je peux aller à l'épicerie sans me faire déranger, ça. Je suis pas là, là.
Ça va, bah tant mieux. Bah tant mieux, le côté pouvoir vivre sa vie tranquillement.
Oui, ça c'est quelque chose qui me ferait peur, le perdre ce rythme de vie-là. Ouais. Quelqu'un qui ne peut plus aller faire l'épicerie, ça doit être épouvantable. Au Québec, j'avoue. C'est vraiment plus rare, là, mais si on parle d'un niveau à la... Tu sais, un Kevin Hart, qui n'est pas nécessairement mon humoriste favori, mais je dis Kevin Hart parce qu'on parle du mot, mais tu sais, que ce soit un Kanye West ou que ce soit Beyoncé, ça doit être, là... T'es déconnecté, t'as plus aucune connexion avec le monde, là, t'es rendu ailleurs.
Ben, tu fais plus ton épicerie, hein, c'est...
Non, tu fais plus ton épicerie, mais de quoi tu parles quand tu rencontres des gens, tu sais?
Aussi, bah tu rencontres des gens qui sont dans les mêmes
dans
lieux
les mêmes
que
sphères.
Toi, donc
ouais.
Peut-être tu te plains de ne pas pouvoir faire l'épicerie. Peut-être que Kanye West parle avec Beyoncé et fait « J'aimerais tellement aller au Super C.
» Sûrement.
Pour revenir sur le Gang Show, qu'est-ce que t'aimes, toi, de ce show-là?
T'as un show qui permet... de faire briller plusieurs styles d'humour. Qui, enfin, on a été longtemps au Québec. Ça fait un bout quand même que ça change, là, que ça tend à changer. Je pense, il y a 15 ans, avec les En route vers mon premier gala, qui était la première porte sur la relève en humour, puis sur d'autres styles. Mais on nous a tellement vendu longtemps l'humour comme étant du simple divertissement qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent pas l'humour, qui connaissent juste ce qui s'est fait à la télé dans les années 2000, qui viennent voir un show d'humour de la relève ou dans des comédie clubs, puis qui sont étonnés de la qualité, puis dans les angles où on va. Puis là, enfin, je trouve le Gang Show permet ça au public de voir c'est quoi vraiment des styles plus poussés, soit dans l'absurde, soit dans l'humour noir, soit dans les réflexions, soit que ce soit, peu importe. Ça donne une super belle vitrine, oui, aux humoristes, mais à l'humour où on en est rendu aujourd'hui.
Non, c'est vrai, mais même qu'est-ce qu'un open mic, quel est le niveau au départ?
Ouais.
Parce que généralement, quand tu vois une captation de cette qualité-là, parce qu'on a vraiment une belle captation qu'on peut partager sur les réseaux, ce qui est génial, enfin, moi j'ai adoré pouvoir faire ça, mais quand tu vois une captation comme ça, c'est généralement des gens qui font de l'humour depuis des années.
Exact.
Et tu vois ça, tu te dis, mais jamais de ma vie, j'arriverai à être aussi bon que cet humoriste. Mais quand tu vois quelqu'un qui commence, tu te dis, ah ben, je vois où on peut commencer, je vois...
Ouais.
Il y a un début de quelque chose qui est le fun de voir.
C'est ça.
Et si on va le revoir dans quelques années, on va voir l'évolution, je trouve ça chouette aussi. Parce que moi, je trouve, de manière générale, les captations, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Par exemple, moi, j'ai fait des recherches sur toi, j'ai voulu revoir un peu tout ce que tu as fait, j'ai pas vu tant de sketchs que ça.
Non, parce que c'est tout, ça appartient au réseau
télé.
Faut des mots de passe, faut être abonné aux chaînes pour pouvoir aller les chercher. Tu sais, j'ai les captations en mode non répertorié, mais tu sais, j'ai même pas le droit de les partager. J'ai au-dessus de 12 captations, mais je pense sur YouTube, il y en a deux, tu sais.
Oui, c'est ça.
Puis il y en a une qui date de 2017. ça a évolué, je pense, quand même beaucoup.
Je te le souhaite, même si j'ai trouvé ça bon. Je te le souhaite qu'en 6 ans, il y ait de l'évolution.
Oh oui, ça a évolué. Mais ouais, fait que le gang show emmène ça, ce qui est vraiment le fun. Ça emmène, justement, avec la popularité des podcasts depuis 5-6 ans, ça a comme démocratisé l'humour. Mais là, ça démocratise encore plus, je trouve, avec le gang show. Où est-ce que les gens, puis les humoristes, les gens qui sont intéressés à vouloir faire de l'humour avec les podcasts ont eu accès à des discussions de loge. Puis je dis discussions de loge, pas parce que c'était des discussions privées, c'est juste que pour avoir accès à ces discussions-là, c'était pas de façon snob, c'était des discussions entre humoristes, entre collègues, on jasait de trucs, d'écriture ou quoi que ce soit. Puis là, c'est rendu à la portée de tous. Puis là, ce qui est cool, c'est que c'est pas juste du monde qui veulent faire de l'humour qui écoute les podcasts, c'est vraiment beaucoup de public qui entend parler d'open mic, mais il y a peut-être 1% des Québécois qui a vu un open mic dans sa vie, même pas. Mais là, avec le gang show, tu vois c'est quoi la différence, justement. OK, c'est ça, quelqu'un qui commence. OK!
Mais avec les bons et les mauvais côtés. Hein,
ouais.
C'est beau aussi de voir quelqu'un qui commence et qui a ses premières bonnes blagues et on voit que ça ressort.
Ouais.
C'est moi, je trouve ça génial. Même dans le gong show, il y en a plein qui sont revenus plusieurs fois. On voit qu'ils progressent et qu'ils deviennent meilleurs. Et c'est super
vraiment
chouette à voir.
Fait que c'est ça que je trouve cool du gong show.
Okay.
Ça a quelques downsides. J'ai su que dans certaines soirées d'humour, c'est arrivé que du monde du public ont crié « gong ». J'ai entendu 2-3 fois cette anecdote-là
je l'ai pas vécu
différentes
encore.
Soirées. Ça, je trouve ça désagréable, mais en même temps, sûrement que ces gens-là auraient été désagréables dans le spectacle, mais autrement.
T'sais. Ils auraient crié autre chose.
Quoi. C'est ça.
Alors, au lieu de gong pour avoir un référent, ils voulaient montrer qu'ils étaient un peu des connaisseurs d'humour en faisant quelque chose qui est horrible pour tous les humoristes.
Ouais,
voilà.
Faites pas ça.
Voilà, c'est le message de ce podcast.
Ouais.
C'est une intervention, en fait. Mais au cours de tous les épisodes, quel est le numéro qui, toi, t'as le plus marqué?
Ben, je pense Alex Harrison est un de ceux qui ose le plus.
Oui.
Mais en même temps, pour lui se poser, c'est ça qu'il propose, tu sais. C'est ce qui est, c'est un intellectuel, là. Il lit énormément de trucs de philosophie, de psychologie, c'est un gros brain. Il a énormément de connaissances, puis il fait, mais de façon, il l'étale. Ça paraît dans son style qu'il a une intelligence puis beaucoup de connaissances, mais il l'étale pas de façon snob, là. Ça sent pas que c'est prétentieux de sa part, mais ça emmène justement tout autre style d'humour, là. C'est rafraîchissant, puis ça fait du bien, puis c'est ça. Ce n'est un qui m'a marqué énormément.
Les imitations doubles, c'est...
Ah ouais, c'est rendu un classique.
C'est parfait, quoi.
C'est tellement bon, mais en même temps, y en a plein, tu sais. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, je pense tous ceux et celles que c'est leur première fois sur scène et que ça se passe bien,
Moi, je comprends pas qu'on vient de faire sa première scène au gong show, filmée devant une salle remplie et devant un jury. Je comprends pas que sa première scène, ce soit ça.
Non, c'est ça. Je pense à une Delphine Lestage Archambault, son premier numéro à vie. Puis c'était bon, là. Elle a fait, je pense que c'était le meilleur numéro de la soirée. C'était super impressionnant. Puis je me remets à mes débuts. J'avais pas cette confiance-là sur scène, j'avais pas un delivery aussi naturel, aussi confiant.
Moi non plus.
Je comprends pas d'où ces gens-là sortent.
Ah
ça
non,
me fait
non.
capoter.
Ben moi, ça fait plusieurs années que je fais de la scène. Venir faire le gong show était stressant. Le fait que ce soit capté, le fait qu'il y ait des humoristes qui regardent, le fait que ça soit diffusé après, ben, c'est stressant.
Ça
rajoute un stress en plus. Une fois que le sketch est lancé, ben, on voit que ça rit, ça redevient une scène normale de « Ah, le public rit, ça se passe bien, je continue.
Ouais. »
Mais ça rajoute un stress dingue qui, déjà de base, parler dans un micro, c'est stressant. Faire sa première scène, c'est stressant. Mais faire tout ça d'un coup, moi, je suis impressionné. Mais je pense que c'est un peu de la folie aussi.
Il y a un peu de
ça,
oui. C'est pas un passage obligé, zéro. Mais en même temps, là, c'est rendu que j'en parle de façon extérieure. Ça a quand même beaucoup de reach. Fait que je pense quelqu'un qui a une démarche sérieuse en humour et qui veut se faire voir, ça vaut la peine comme plateforme. Mais moi, c'est ça. Si j'étais pas juge puis c'était un projet extérieur, je le ferais, mais je calculerais très bien mes passages, là. Ce serait bien préparé, puis je le ferais pas juste pour faire le stun de venir faire le gang show.
Bon, je le vois comme toi.
J'ai deux
passages qui étaient bien travaillés et après l'avoir travaillé au Québec. Parce que j'aurais pu faire mes numéros en arrivant directement au Québec. Ouais. Je voulais les avoir d'abord testés sur un public québécois pour voir, ah, ça marche plus ou moins.
T'es arrivé quand exactement?
En septembre.
Ok, ok. Fait que le projet, tu le connaissais déjà un peu avant?
J'ai plus vraiment découvert une fois sur place, pour le coup. Le prince... Bah, coucou, j'avais vu passer quelques petites choses.
Ok.
Quand je suis arrivé, mais j'avais pas encore vu les épisodes vraiment avant de venir.
Ok, ok.
Pour le coup. Et une fois que je suis venu, tout le monde te parle du Gong Show. Quand tu fais des open mic, tout le monde te parle du Gong Show, c'est sûr et certain. est-ce que t'as fait le Gong Show? Un tel, il a fait le Gong Show, il est cool, tu vas voir. Et je fais ok. Mais après, une fois que tu l'entends, mais tu vas voir les émissions, tu te dis est-ce que je m'inscris, est-ce que je m'inscris pas? Il y a un jury, c'est diffusé. Ouais, mais si. On se dit après, mais si je le fais, je vais plus pouvoir le jouer parce que les gens vont l'avoir vu dans le Gong Show. Ça, je pense que tu penses un peu trop, tu te prends un peu trop la tête de, mais tout le monde va l'avoir vu. Non, en vrai, j'ai rejoué le sketch après, personne m'a jamais dit, je l'avais déjà vu.
Puis même si il y a trois personnes dans la salle qui l'ont déjà vu, c'est tellement pas grave, c'est trois minutes sur un passage de souvent 6 à 8 minutes, des fois 10. Quelqu'un qui a déjà vu un 3 minutes sur 10 va juste être content, il va s'en rappeler de peut-être 30 secondes de ce 3 minutes-là. Puis il va être content de dire à son ami « Hey, Jack, c'est bon ça, je l'ai déjà vu. Mm-hmm. » C'est tout. Ça, c'est vraiment pas grave, mais en même temps, c'est ça. Ça n'a pas de mauvaises répercussions sur pour qui ça se passe mal.
Non. Et en plus, comment c'était vendu au départ, quand on en parle, c'est le concept même d'un gong show, parce que c'est pas un concept que vous avez créé non plus.
Non, on n'a rien inventé. On a fait un mash-up. Au final, c'était un mash-up du Gong Show des années 70 aux States avec America's Got Talent, avec toutes les émissions avec des juges au final. Là.
Mais c'est moins méchant que ce à quoi on pourrait s'attendre.
Ouais.
Vous nous dites tout le temps, on rose les invités, on leur fait des blagues, on les vanne, on leur fait un retour. Mais moi, je trouve que c'est assez gentil et assez dans une bonne ambiance.
Oui.
Rarement j'ai regardé un épisode en me disant ouf, ils sont violents.
C'est rare que le malaise vient de nous, je pense.
Oui, c'est plus de comment l'humoriste prend ce qui est,
est dit. Mais je dis, c'est rare. T'sais, ça arrive qu'on a des blagues qui passent dans le beurre, là, qui tombent à plat parce qu'on improvise nos blagues, on n'a rien de prévu. Puis c'est notre, je le vois comme étant notre prise de risque à nous dans le spectacle. Est moins grande là, que l'humoriste qui vient se prêter au jeu à 100%, mais il y a ce mini retour de balancier-là que nous aussi, ça se peut qu'on se plante.
Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit « Ah, là, on a été trop méchant, ah, on a mal exprimé ce qu'on voulait dire?
» C'est arrivé, mais très, très rarement. Puis tu sais, on parle toujours aux humoristes avant et après. Mm-hmm. Fait que s'il y a quelque chose qui a mal passé, si on s'est mal fait comprendre, on prend toujours le temps après de bien s'expliquer. Mais je pense que c'est arrivé deux fois justement qu'il y a des humoristes qui sont partis fâchés. Mm-hmm. Puis j'ai su par après que ces humoristes-là étaient désagréables dans d'autres contextes.
Okay.
Étaient pas le fun avec le staff ou étaient amers. Ou... Fait que ça va, là. Je pense qu'on est sensiblement humains, là. Mm-hmm. Oui. Charles et moi.
Fait que... Oui, parce qu'en plus, vous êtes vraiment super accessible. On discute avec vous après le show, on boit un verre. Mm-hmm. C'est vraiment... Non, franchement, je m'attendais... Quand on parle d'un show de Gong Show, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent. Et moi, je dis, il a fallu d'abord que je regarde quelques épisodes pour me dire... OK, ils sont fins. OK, j'aurais dit la même chose qu'eux. OK, je peux le faire. Allez, on va s'inscrire. Allez.
Ouais.
Mais il a fallu... Je suis arrivé en septembre, je me suis inscrit pour décembre.
Je comprends.
Et je l'ai vraiment fait en février.
Ouais,
le
ouais.
premier. Puis après, j'en ai fait un deuxième en mai. Mais voilà.
Mais ça faisait partie de... Ben, Charles et moi, je pense on est accessible, pas juste dans le cadre du Gong Show, mais on aime jaser aux gens, puis on trouve ça le fun d'être accueillant, parce que je me rappelle commencer dans le milieu, puis ceux qui m'ont marqué, c'était ceux qui étaient accueillants avec moi. Là. Genre, c'est tellement stressant rentrer dans ce milieu-là, rentrer dans une loge que tu connais personne. Si en plus t'arrives dans une loge, puis il y a personne qui t'accueille ou qui fait comme « Hey, salut, c'est quoi ton nom? » C'est vraiment désagréable comme feeling, puis je veux pas, en ma présence, que d'autres mondes se sentent comme ça, tu sais.
OK.
Puis Charles non plus est pas comme ça, puis on a un amour du stand-up et de l'humour, puis on veut que ça reste à échelle humaine. Non, c'est on s'en est parlé, ça fait partie de... Si on avait à décrire le projet, là,
Genre, ça fait partie de nos missions, là, rester accessible.
Ben pour moi, la mission est réussie de ce
côté. Yes! Yes! Yes!
Yes! C'est bon.
Pour la Belgique, oui! Oui!
Nous, on parle bien anglais en Belgique.
Je sais. Non, j'ai fait. Je suis déjà allé. Il y a 6 ans, j'avais fait France-Belgique en quelques spectacles.
Avec Alexandre Forêt.
Ouais.
Première partie de Dan Gagnon.
Oui.
Oui. Ça va être tout ça. Oui, mais on va en parler tout à l'heure.
Parfait, je te laisse faire ta recherche.
Il n'y a pas de problème, c'est juste pour ne pas devoir le répéter après.
Je comprends.
Mais pour terminer avec le Gong Show, le show il a vraiment pris une ampleur folle. Vous avez commencé par des épisodes test, puis vous les avez mis sur YouTube, puis vous avez pu payer les humoristes, puis vous avez fait le Gong Show dans plusieurs villes, au festival Zoufest, vous avez été nommé au Gala des Oliviers, catégorie série web humoristique de l'année. Pour la 100e, tu l'as dit, vous avez fait un show sold out au Club Soda. Vous avez plusieurs millions de vues sur YouTube. Et le 24 juillet prochain, vous faites un best-of sur la scène du Loto-Québec dans le cadre du festival Juste pour rire.
Ouais.
Il y a aussi le festival d'humour de Trois-Rivières, mais je trouvais que le festival Juste pour rire, ça donnait un peu mieux. Désolé pour les gens du festival de Trois-Rivières. C'est quoi la prochaine étape? Jusqu'où vous voulez amener le Gong Show?
À la base, c'est l'idée de Charles. Puis Charles, moi, j'apprends énormément à travailler avec lui. En travaillant avec lui, j'apprends énormément à se laisser aller un peu plus dans la production, puis faire confiance aux idées folles. Puis Charles est beaucoup là-dedans. On a une idée, puis on l'a fait, puis c'est ça le Gong Show. Genre, ça s'est créé en 3 semaines, pratiquement, ce concept-là. Le Club Soda, on l'a booké en moins d'un mois avant la date. On a booké ça parce qu'on était comme faudrait faire un événement spécial pour la 100e. Là, c'était censé être en août, mais en août, c'est la semaine, les semaines de la construction, les vacances de la construction. Fait que c'était comme plus possible avec le booking du Club Soda. Fait qu'on a fait, c'est notre seule fenêtre de temps, on va le faire là. Fait que ça s'est booké en 3 semaines. Même chose quand on est allé à Paris à l'automne dernier. Ça s'est fait sur un coup de tête. Fait qu'on veut toujours pousser plus loin, mais je peux comme pas te dire ça va être quoi notre prochaine idée coup de tête là. Si elle est pas faite, parce qu'on l'a pas eu encore, l'idée. Mais c'est. On n'a pas de plan à se dire dans un an on pourrait faire ça. Je dirais du moment qu'on va l'avoir, ça va se faire.
Mais t'as le goût de continuer.
Ouais. Vraiment. Puis on veut. Tu sais, à la base, c'était vraiment juste un projet pour le fun, puis c'est devenu une petite business. On a des employés, là. On engage du monde. On n'a pas des employés, là. Mais on engage du monde. Là, on commence une coprod avec Zéro Musique pour justement pousser le projet plus loin. Où, à un moment donné, ça nous dépasse. Là, on peut pas tout faire à deux. Puis on a besoin de ressources qu'on n'a pas, que eux peuvent nous apporter. Fait qu'on a ça. On dit pas non à la télé. C'est pas un plan premier. On veut que le Gong Show reste sur le web, reste ce qu'il est, accessible. Mais des déclinaisons pour la télé, si un jour ça se présente, on dit pas non. Mais ça, c'est hors de notre contrôle.
Okay.
Faut un producteur et un diffuseur qui embarquent dans le projet. Si on le fait, c'est sûr, on se l'est dit, puis c'est quasiment signé là, comme contrat entre Charles et moi de « faut que ça reste sur le web, 100%. »
J'adorerais que dans 3 mois, on vous voit à la télévision, plus rien sur le web parce qu'il y a eu un gros contrat.
Ben peut-être tu ressortiras ça, puis j'en rirai. Mais j'en rirai bien riche.
Mais le Gong Show, il a pris une place importante dans ta vie.
Ouais.
Il occupe beaucoup de ton temps. Ouais. Je pense. Est-ce que t'arrives quand même à te concentrer sur ta carrière personnelle et est-ce que t'as pas peur d'être maintenant connu plus que comme le gars du Gong Show?
C'est pas trop une crainte parce que ça reste un spectacle d'humour. Je reste moi-même, c'est quand même très proche de ce que je propose sur scène quand je t'en juge. Ça reste très proche de moi. Puis je suis dans le punch. Fait que ça me dérange pas d'être associé au Gong Show parce que c'est ça. C'est pas comme si j'étais rendu la vedette d'un produit pour une publicité. Je suis pas rendu une marque de char. Puis si ça arrive, ça arrivera peut-être, mais ça me dérange pas. Pour l'instant, finalement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour... Je garde en tête toujours ma carrière solo, là. C'est ça que je veux mettre de l'avant. Mais pour l'instant, on s'était dit, après 3 mois du Gong Show, on s'était dit, OK, on donne un blitz de 3 mois là, sur le Gong Show, puis après ça, pour pouvoir se concentrer. Mais là, après 3 mois, le projet a pris de l'ampleur. Ouais, on se donne ça un autre 6 mois. Ah, finalement, un autre... Tu sais, il y a toujours... Ça évolue tout le temps, fait que... Pour l'instant, je suis moins en création, je suis moins en écriture pour le stand-up, mais j'ai des dates de bouquet à partir de l'automne pour une petite tournée. J'ai un genre de 12 dates qui s'en viennent. Mais c'est le même show, sensiblement, retravaillé que j'ai fait à ZooFest 2022. Fait que c'est sensiblement le même show, mais tu sais, j'ai pas eu le temps d'écrire. Je pense en un an, j'ai écrit peut-être 15 minutes là, de matériel que j'aime. Puis c'est pas un 15 minutes béton solide que je fais comme « Wow, je peux offrir deux numéros pour des galas. » Mais c'était pas l'objectif, justement, avec ma boîte de gérance. Avec ma gérante, c'est ça qu'on a travaillé dans nos objectifs d'année. C'était pas ça. L'année d'avant, c'était de « Je voulais faire un gala. » J'ai tout mis mes énergies dans faire un gala puis travailler un numéro. Mm-hmm. J'ai réussi, j'ai fait un gala. Cool! Là, cette année, c'est pas ça l'objectif. Mais l'année prochaine, il faut que ça revienne. T'sais, je veux que ça revienne là, comme objectif de miser plus sur carrière solo.
Mais donc, tu vas tourner cet automne avec ton spectacle solo qui s'appelle Impuissant.
Ouais.
Moi, j'ai eu l'occasion de voir 45 minutes de ce show-là. Je sais pas si c'est vraiment... Que t'avais fait quand tu tournais avec Charles Deschamps?
Je faisais un 45 minutes, mais dans ce 45 minutes-là, il y avait peut-être un 15 minutes de vieux stock ou de stock que je travaillais ces temps-ci. Fait que t'as peut-être vu la moitié de mon show.
OK. Mais de quoi parle le show pour ceux qui voudraient aller le voir cet automne?
Le titre est quand même puissant.
Est-ce que t'avais prévu cette phrase pour les interviews? Non.
C'est quand même
Elle est bien. Je te vois bien dire ça, tout le monde en parle.
Puissant de sens. Puissance. Non, mais ça part. Il y a beaucoup des trucs que j'ai écrits qui partent de justement, je me sens impuissant. Je suis un peu victime de ce qui se passe dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai aucun contrôle. Ça fait partie de mes réflexions de vie. Je suis juste un humain parmi tant d'autres, puis c'est ça. J'ai pas de pouvoir plus que d'autres, fait que je parle de mes failles, je parle de mes réflexions. Okay. Ça ressemble à ça, pour pas trop donner de... Tu sais, je peux pas te dire, j'ai un numéro là-dessus. Je parle de ce sujet-là précisément. En globalité, ça ressemble un peu à ça, là. Si tu regardes le show dans sa... Son ampleur, pas son ampleur, sa globalité.
Sa globalité, oui.
Ouais, son ampleur, c'est un autre mot.
C'est un autre mot. On utilisera dans une autre situation une autre
fois. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, les langues.
C'est ça.
Il y a des mots pour plusieurs sens.
Eh oui. Mais c'est ton troisième show solo?
Oui pis non.
Oui pis non?
Oui pis non. C'est pas trois heures différentes. Ma première heure, c'était ma première heure. La deuxième, qui était... La première heure, c'était une joke en 60 minutes. Mm-hmm. Où est-ce que je commençais à avoir trouvé un peu mon style, que j'aime partir dans des longues parenthèses, puis je déblatère sur de la marde. Fait que j'étais parti là-dessus. Fait que c'était un mélange de best-of de mon matériel après 4 ans d'humour. Okay. Après 3-4 ans d'humour. Puis j'avais un genre de 15 minutes d'intro spécifique à ce show-là que j'avais écrit vraiment pour la formule du show. Okay. Puis un 5 minutes aussi original pour le concept. Le deuxième, là, c'était plus... Tu sais, chaque show, je les ai pas faites 10 fois, là. Fait que, tu sais, c'est... Le deuxième, il y a peut-être un 15 minutes de la première, puis le troisième, il y a un 15 minutes de la deuxième. Tu sais, ça... C'était plus un work in progress, puis qui a changé de nom parce qu'il y avait du nouveau matériel, puis c'est dans des cadres différents que je le faisais.
Okay.
Mais tu sais, j'ai pas, c'est ça. Je peux pas dire que j'ai 3 heures complètes de matériel présentable.
Mais est-ce que tu considères alors du coup comme ton vrai premier show avec lequel tu veux tourner ou...
Ouais, Impuissant, ce serait ça.
Okay.
Les autres, c'était plus des tests. C'était moi me donner le défi d'écrire. C'était vraiment plus dans une démarche de me trouver sur scène, dans une démarche créative. Mm-hmm. Mais là, en termes de produits plus bruts, finis, que je suis à l'aise vraiment d'aller présenter, puis qui me ressemble plus, ce serait la première officielle. Ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça.
Ouais.
OK, bah, c'est plus clair pour moi. Tu vas aussi animer une soirée mensuelle au parc du Domaine Vert à Mirabel.
Ouais.
Je dis plein de mots que je ne connais pas.
mais
est-ce que le rôle d'animateur, c'est quelque chose que tu apprécies? Tu l'as fait dans plein de soirées autour de ta carrière, on va revenir dessus, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire?
Ça dépend. Ça dépend vraiment. En fait, ça a été ultra formateur de le faire. À mes débuts, je n'étais pas à l'aise. Ça m'a pris 3 ans de scène avant de me lancer à aller animer. Parce que avant, j'étais un peu plus dans l'absurde quand j'ai commencé, puis je me voyais pas comment transposer mon style en animation. Puis j'étais un peu plus en mode personnage, pas avec un costume, mais c'est ça. Fait que je me voyais pas pour une soirée avoir les rênes d'une soirée. Ça a pris 3 ans environ. Là, j'ai animé, ça m'a aidé énormément à trouver un naturel un peu plus, parce que là, il faut vraiment que tu connectes avec le public. Après ça, animer à toutes les semaines, moi, ça m'a épuisé, justement parce que je suis plus 100% dans l'absurde, mais j'aime aller jouer avec les codes, j'aime m'amuser dans des délires qui fit encore un peu moins des fois en animation. Fait que là, ce que j'écrivais pour animer ne se transposait pas nécessairement après ça pour la scène, pour aller dans des soirées de rodage. Fait que j'avais comme l'impression de travailler un peu dans le beurre, mais ça m'a aidé sur scène, mais pas nécessairement à créer du nouveau matériel de stand-up que j'aime.
Plus pour ton aisance sur scène.
Ouais. Puis maintenant, animer, j'aime ça, mais c'est rien comparable à
jouer un numéro.
À jouer mon numéro, à vraiment être moi qui présente 100% ce que j'ai à offrir. C'est là que j'ai le plus de fun sur scène. Mais animer, quand t'es sur ton X à l'animation, là, une soirée que ça se passe bien, c'est un autre buzz que le stand-up pur, là, qu'en numéro. Mais c'est vraiment le fun. Quand ça fonctionne, là, quand t'es vraiment justement à l'aise, puis tu connectes bien avec le public, puis que tout roule, puis que le show fonctionne bien, c'est une belle réussite. Là. Mais en fait, là, je suis plus à l'aise, mais le fait que j'ai l'air jeune, là, j'ai 30 ans, mais plus jeune dans vingtaine, j'avais l'air encore plus jeune, puis je sentais pas que j'étais crédible pour animer une soirée. Quand je joue devant un public étudiant, ça va, tu sais, c'est du monde de mon âge ou plus jeune, mais quand j'arrivais devant des publics plus âgés de 35, 40, 50, j'étais comme, je sais pas, je me vois pas être cette personne-là, être dans le public, avoir 50 ans, puis me voir sur scène, j'étais comme, pourquoi? Pourquoi qu'il me parle, lui? C'est peut-être moi qui n'avais pas la confiance plus.
C'est ton ressenti sur la situation aussi, mais...
C'est ça, c'est moi qui faisais de la projection sûrement, mais ça faisait que j'étais moins confiant sur scène, fait que ça faisait en sorte que c'était moins bon, puis c'était un genre de cercle vicieux. Là, je suis plus à l'aise avec qui je suis, avec ce que je propose, fait que c'est pas le genre de public qui va m'intimider, mais ça répond-tu à la question?
Ouais, ça répond à la question. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour les humoristes qui veulent s'essayer à l'animation ou qui veulent progresser en animation? Est-ce que toi, avec ton expérience, tu t'es dit « Ah ben, si c'était à refaire, je referais différemment » ou juge un conseil?
C'est... Même moi, en fait, quand j'anime, j'étais encore stressé d'aller animer. Je suis pas encore dans aussi à l'aise que quand je suis en numéro. Je sais jamais comment ça va se passer. Quand je suis en numéro, je sais que j'ai du matériel. En fait, c'est que ça dépend. Il y a deux sortes d'animation. Animer une soirée que c'est un show spécial que je vais animer, je suis à l'aise parce que j'ai plein de matériel. Je peux me sortir de la situation, peu importe. Ça va aller. Animer une soirée récurrente où est-ce que là le public revient, où est-ce que j'ai déjà fait tout mon meilleur matériel pour me sortir de situation. Là, si j'arrive à une soirée que, justement, je l'ai toute faite, mon stock, là, ça me fait plus paniquer. Parce que j'ai plus de porte de sortie puis je veux pas refaire le même stock que j'ai déjà fait. Fait que ça, pour ça, j'ai pas de conseils à donner à personne parce que j'ai encore à apprendre de ça. Je suis pas le meilleur animateur dans ces contextes-là. Mais ce serait un conseil, c'est... Je vais y aller plus en tant que humoriste, quand je suis backstage puis j'entends un animateur, je suis comme « Ah, je ferais ça différemment. » C'est un animateur qui manque un peu d'énergie. Même si en stand-up, quelqu'un est plus low dans son énergie, t'as pas le choix en animation d'être. Joue l'animateur au pire, mais je pense que ça va être moins pire pour le public que ça a l'air un peu fake que quelqu'un qui fait « Non, je me respecte puis je reste moi-même à 100% » puis tu fais « Ouais, mais là, ça met pas d'énergie dans la salle. » Ce serait le conseil. Mais sous toute réserve, là.
Pour le peu d'animation que j'ai fait, parce que maintenant je le fais à chaque semaine, l'animation, mais je suis assez d'accord avec toi que des fois je vois des animateurs et je fais, mais ton rôle c'est d'amener l'énergie dans la soirée, vas-y un peu plus. Et en même temps, quand je le fais, des fois je sens que c'est pas naturel de faire des allez, plus fort, allez-y.
Ouais.
Mais en même temps, quand je le fais pas, je vois que c'est mollo et. Quand je suis humoriste et que c'est mollo, ben je fais ben, l'animateur, il n'a pas fait sa partie du travail, quoi.
Exact.
Donc oui, je suis assez d'accord avec ton conseil.
Ouais, ce serait ça. Après, ben si tu testes des blagues parce que tu as une soirée récurrente puis ça marche pas, ben c'est pas grave là. Mm-hmm. Ça arrive là. Tu sais ça, il y a pas de truc à donner à part plus tu vas en faire, plus tu vas t'améliorer puis plus ta moyenne au bâton va être meilleure là.
Ça marche. Est-ce que tu as des projets que j'aurais oublié de mentionner ou dont j'aurais absolument pas connaissance peut-être?
Que j'ai fait?
Que tu vas faire?
Que je vais faire? Oui, oui, oui. Ben, que je vais faire... Ouais, je peux en parler. C'est Phil Roy qui va avoir un show semi-podcast, semi-radio.
OK.
Fait que je vais être un chroniqueur récurrent là-dessus.
OK.
Mais je sais pas en ce moment si c'est officiellement juste le titre de travail ou ça va être le titre officiel. Fait que, genre, je peux pas trop en parler.
OK.
Mais en ce moment, le titre, c'est « Un peu beaucoup passionnément ». Puis okay. On est trois chroniqueurs, puis chaque épisode, c'est sur un sujet. Puis il y a une personne qui en parle, qui aime le sujet un peu, l'autre beaucoup, l'autre passionnément, là, comme quand tu joues avec les pédales d'une fleur. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui s'en vient.
Okay.
Mais ça a été acheté par un producteur-diffuseur. Fait qu'éventuellement, ça va, je pense que c'est vers cet automne, là, mais on commence à enregistrer. Les enregistrements ont déjà commencé.
OK. Mais t'as le droit d'en parler.
Je peux en parler. Oui, ça oui, va. Je peux en parler.
Je vais pas devoir couper ça du podcast après.
Non, ça va, tu sais. C'est juste que j'ai dit que le titre est ça, mais je sais pas si ça va être ça, je sais pas.
Il y a encore des choses qui peuvent évoluer. Quoi.
C'est ça.
Mais avec Phil Roy, donc ça devrait être vraiment cool.
Ouais.
Phil Roy est un ancien invité du podcast aussi.
C'est vrai?
Où je fais ma propre pub. Hein,
wow! Fait qu'il y a ça, sinon Jeannot Barbecue avec Jean-Sébastien Girard qui revient à l'automne. J'ai été, je pense, la dernière fois que je l'ai fait, Jean-Sébastien m'a dit que c'était moi qui l'avais fait le plus souvent comme invité, comme petit poulet,
oui.
Où on roast les invités. Fait que je devrais le refaire cet automne.
OK. Cool.
Mais sous toute réserve, encore une fois, je peux pas décider de l'avenir, là, mais
oui, c'est ça.
Il y a mais de fortes chances que je refasse ça.
C'est dans les projets.
Ouais.
Cool.
Après ça, il y a rien d'autre. Ben, c'est ma petite tournée qui s'en vient, mais de précis en ce moment, il y a rien d'autre.
Ça marche. Bah alors comme ça, on est revenu sur ton actualité, ce qui fait que maintenant on peut revenir sur ton parcours pour arriver jusque-là. Parce que dans le podcast, moi j'aime remonter le temps, donc on va revenir à ta naissance le 22 janvier 1993.
C'est bien ça.
1993, toujours la Belgique. Donc t'as grandi à Saint-Eustache.
Ouais.
Est-ce que t'étais déjà un enfant drôle?
Non, mais j'étais très 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 réservé. Tu sais, je fais de l'anxiété dans la vie, puis j'en parle sur scène ou ouvertement. Je suis pas gêné de ça. Puis c'est drôle comment, là, avec un regard d'adulte, je repense à quand j'étais enfant. J'étais comme, ah, OK, j'étais pas gêné, j'étais anxieux. j'étais très, très anxieux, fait que j'aimais pas déranger. J'étais un petit élève modèle. Mais comme je parlais pas beaucoup, j'écoutais beaucoup. Puis j'avais déjà beaucoup de réflexions. Puis je pense que j'étais drôle, mais dans ma tête, mais j'avais pas confiance pour le dire à voix haute dans la classe. Je déconnais pas en classe, rien de ça. Fait que j'étais pas cet enfant-là. Mais je me rappelle d'une blague que j'avais écrite à 5 ans. La formule fonctionne, là.
Vas-y.
J'étais en maternelle, puis y a un de mes amis en maternelle. On parlait de quelqu'un qui avait redoublé, qui avait doublé sa maternelle.
Mm-hmm.
J'étais comme, comment tu fais pour doubler ta maternelle? Faut que tu rates ton gâteau à 10 bouts.
C'est mignon.
C'est mignon,
oui.
Mais...
Mais j'ai entendu pire.
Il y a pire, c'est ça.
Surtout pour un enfant de maternelle.
Puis je me rappelle, tu sais, c'est lucide comme blague.
Mm-hmm.
C'est ça.
Tu t'attendais à mieux, à une meilleure réaction de ma part, je suis désolé.
Mais non, on est deux dans un local, puis je te parle d'une blague qui date de 25 ans. Là.
OK.
Mais je me rappelle de ça. Sauf que, non, j'ai commencé à déconner en classe à partir de secondaire 5. Mm-hmm. Fait qu'en Belgique, je sais plus.
Secondaire, c'est... cinquième secondaire.
On cinquième? OK.
On avait simplement la deuxième année du lycée pour la France.
OK, c'est le même système scolaire.
Ouais, c'est juste que la seule différence, c'est que vous dites secondaire 1, nous on dit première secondaire. C'est la seule différence au niveau. Et vous, c'est 5 années, puis c'est le cégep.
Ouais.
Nous, c'est 6 années. Et après, on va soit à l'université, soit dans ce qu'on appelle les autres écoles, où on peut faire des bacs.
Okay.
Que l'université, c'est généralement des masters. On fait bac puis master.
OK.
C'est la petite différence. Mais le reste est le même.
Parfait. Donc, en cinquième secondaire.
C'est ça.
J'étais au programme international au secondaire. Puis, on avait le choix, rendu en secondaire 5, d'aller en chimie physique maths fort ou bio maths faible. Puis, j'étais super bon en mathématiques, mais... puis en sciences, mais ça m'intéressait pas. Je savais que je voulais pas faire ça plus tard. Fait que j'ai comme commencé à aller vers le chemin plus facile. Mm-hmm. Mais j'étais bon à l'école, j'avais pas besoin de travailler tant que ça ou d'étudier énormément. Je comprenais rapidement. Fait que je m'emmerdais dans mes classes, là. Okay. Et là, je suis devenu un peu plus dérangeant. T'sais, là, je prenais plus ma place puis je déconnais un peu plus. Mais j'ai toujours eu peur de déranger. J'ai toujours, je pense, même si je déconnais, je restais respectueux. Mm-hmm. J'avais trop peur de l'autorité pour me la mettre à dos.
Ouais, je comprends. J'étais exactement comme toi. J'ai aussi énormément peur de déranger. C'est aussi pour ça que, par exemple, tu es dans le podcast parce que je te trouve accessible, ouais, et que j'ai pas l'impression de te déranger quand je viens de parler, donc j'ai pu te demander de participer au podcast, par exemple. Tu vois, c'est...
Ouais, ouais, ouais.
Moi, peur de déranger, c'est... Je t'ai entendu en parler dans plusieurs podcasts, j'étais là, ah bah, je me reconnais dans tout ce que tu dis. Je n'aime pas déranger non plus, donc moi, si je faisais des blagues et que j'avais l'impression que ça dérangeait quelqu'un, tu ne m'entendais plus.
Ouais.
C'était fini, je disparaissais. Mais si je voyais que ça faisait rire et que les gens étaient d'accord, c'était parti. C'est des blagues, tant que ça rit, moi, je continue, en fait.
Exact.
C'est ça. Mais est-ce que tes parents ou est-ce que ton grand frère Julien sont des gens drôles?
C'est ma mère est très drôle, mon frère aussi. Mon père, on dirait que je découvre son sens de l'humour là. Mm-hmm. Plus jeune, au secondaire, tout, on avait plus de différents, lui puis moi. Nos caractères s'entrechoquaient.
Okay.
Mais là, il est à la retraite depuis 4 ans. Puis je vois une énorme différence. Là, il est dans le laisser-aller un peu plus, puis il est moins dans... Il a travaillé fort pour qu'on manque de rien. Mm-hmm. Puis il était très stressé par la job. Puis là, je vois que, justement, ça a pris 2 ans peut-être que la retraite fasse effet. Puis là, il me fait vraiment rire, là. Il a un laisser-aller super le fun. Mais ma mère est très, très drôle. Ma mère, okay. Elle a le bonheur facile, puis elle rit à rien. Mais drôle, elle est pas gênée, puis elle dit ce qui passe par la tête, là. Il y a pas de réserve. Mon frère aussi, c'est grâce à lui que j'ai fait de l'impro, mm-hmm, ce qui m'a amené à faire du mot. Fait que ça, je le dois à mon frère.
Okay.
Mon frère, lui, avait pas peur de déranger, il avait pas peur du regard des autres. C'était le au secondaire, c'était le jeune un peu space, là. Il était allé à l'école à un moment donné avec des lunettes d'aviateur, tu sais, c'était... Il avait l'air d'un personnage dans un teen movie, là. Okay. Pas le nerd, mais le space. Mm-hmm. C'était le spécial. C'était mon frère. Fait qu'il m'a apporté à, justement, m'en foutre un peu plus. Okay. Il me fait vraiment rire. Là, on rit beaucoup en famille, là. Ça fait partie... L'humour a toujours fait partie de notre famille. Les spectacles qu'on allait voir jeunes, c'était des spectacles d'humoristes. Je regardais tout ce qui passait à la télé en humour. On l'écoutait. Ça a fait partie de ma vie énormément.
Bah, c'était ma prochaine question. C'était, est-ce que vous alliez voir beaucoup de spectacles? Si tu te rappelles du premier spectacle que tu allais voir d'humour?
Jean-Michel Anctil, premier show. J'ai oublié, c'était Rumeur, je pense, son premier spectacle.
Je vois c'est qui Jean-Michel Anctil,
okay,
mais je ne connais pas ce type de spectacle.
Ouais, okay. Mais j'avais 9 ans, puis je me rappelle avoir tellement eu du fun là, quand il faisait son personnage de râteau. Pour un enfant, c'est magique, là. Mm-hmm. Même adulte aussi, là, mais c'est, oui, à l'époque.
Encore plus.
Mais enfin, il y a eu quelque chose de tellement ridicule. J'ai vu le premier show de Louis-José Hood aussi. J'ai vu le premier show de Mike Ward. J'avais 11 ans.
Le premier show de Mike Ward à 11 ans, c'est...
Ouais, ouais, ouais.
Ça marque.
Mais ça, il y avait ça. Tu sais, mes parents, il n'y avait pas de retenue là-dessus. On pouvait parler de tous les sujets. Il était à l'aise, là. Tu sais, c'était pas... Il était sévère sur... les limites qu'il imposait, genre j'avais pas le droit de dépasser les limites, mm-hmm, mais les limites étaient quand même assez lousses. Tu sais, il y avait pas d'affaire, il y avait pas peur que je devienne une mauvaise personne, parce que j'allais voir Mike Ward,
c'est ça, ouais,
à 11 ans, là, genre j'étais assez intelligent pour comprendre que c'était des blagues, puis que... Mais, ouais, ouais.
C'était lequel encore le premier show de Mike Ward, pour le coup?
X, c'était son deuxième, je crois.
Haïssable?
Haïssable, je pense.
Je pense que c'est Haïssable.
Ouais, ouais, ouais.
Mais donc, oui,
je me rappelle, il faisait une blague à un moment donné qui... Je sais pas si c'était un vrai joint, mais il faisait comme s'il fumait un joint sur scène. Mm-hmm. Puis je me rappelle, j'étais à Deux Montagnes, qui est la ville à côté de Saint-Eustache. C'est là qu'on était allé le voir. Puis c'était à côté d'un poste de police. Okay. Puis dans ma tête, là, de 11 ans, j'étais comme... Wow! Il est fou! Il fume un joint à côté des policiers! ça, là, ça m'a marqué de comme, waouh, il est badass.
Ben, c'est le truc le plus badass qu'il ait fait, hein, je pense. mais oui, il y avait aussi, mais même il avait fait le sketch du joint à Juste pour rire avec Elle va revenir.
Ça aussi. Se peut.
Moi, ça m'avait marqué ce sketch de où il fume et il dit avec sa copine elle va revenir quand ils étaient séparés.
Ok, je me rappelais pas que c'était en même temps.
Mais je sais pas si joint. C'est. Je sais, là, le niveau timeline, je suis pas sûr, mais je me rappelle aussi d'un sketch où il est à Juste pour rire et il fume et elle dit elle va revenir. Elle va revenir.
Ok, ok.
Ils essaient de se convaincre qu'elle va revenir, mais c'était au moment où ils étaient séparés, elle est vraiment revenue. Donc, yeah. Mais ce sketch-là m'avait vraiment marqué aussi de. Parce qu'on a, on a exactement le même âge, donc je pense que c'est plus ou moins la même période.
Ouais.
Moi, je ne l'avais pas vu en vrai. Moi, je l'ai vu.
En captation.
En captation, vidéo Juste pour rire, que quelqu'un d'autre que Juste pour rire avait repartagé.
Ouais.
Merci aux gens qui font ça. mais oui, Mike Ward aussi m'a marqué probablement vers le même âge, peut-être un petit peu après pour moi.
Ouais.
Mais oui, ok. Et vous alliez voir vraiment beaucoup de shows, vous en regardez beaucoup à la télévision tout le temps, les bye-bye, tout ça, les Juste pour rire.
Ouais, pas mal. Et je connaissais rien de l'humour anglophone.
Ok.
On n'écoutait pas la télé en anglais chez nous, les films c'était en français aussi, fait que toute la culture américaine, j'ai découvert à l'école de l'humour.
Ok.
Avant ça, je connaissais pas Louis C.K., je connaissais pas Bill Burr, je connaissais rien de ça, okay. Fait que ça a été... une deuxième école de l'humour, là. Découvrir ça, ça a été... Ça m'a aidé à comprendre un peu plus c'était quoi le stand-up.
Mais est-ce que quand tu regardais les humoristes étant petit, tu te disais « Ah, moi je veux faire ça » ou ça t'attirait d'une certaine façon ou pas du tout?
J'ai toujours eu le désir, on dirait, vu que quand j'étais jeune, j'étais très discret, justement, je dérangeais pas, j'étais beaucoup dans ma tête. Mm-hmm. C'est comme si j'avais énormément de réflexions puis énormément de choses en tête. Puis j'étais comme, un jour, j'aimerais ça, partager ça. Mm-hmm. Je savais pas comment. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Je me disais, ah, peut-être écrire un livre. Peut-être. J'avais des idées artistiques, mais sans me dire, c'était pas un rêve de petit cul. Mm-hmm. Mais je me disais, je pense qu'un jour, je vais peut-être faire de quoi. Là-dedans, genre. Mais c'est venu au cégep, l'idée vraiment de me lancer en humour. J'ai fait de l'improvisation tout mon secondaire. Puis c'est au cégep que j'ai débloqué. Ça se passait bien au secondaire, mais j'étais pas une sommité, lui, pas du tout. Mais au cégep, j'ai vraiment pris une grosse coche. Ma courbe d'amélioration a été énorme. Puis là, ma deuxième année au cégep, surtout, là, je gagnais des prix. Puis j'étais comme, ok, ça, j'ai quelque chose. Là. Genre, à un moment donné, j'étais assez conscient pour faire « Ok, oui, j'ai l'approbation de mes pères. » C'est pas moi qui se trouve bon. Là, genre, ça va. Fait qu'à partir de là, mes meilleurs impros, c'était des solos. Fait que je me suis dit que ben, je pourrais peut-être lancer ça à l'écrit. Fait que mon audition, c'était un personnage à l'école de l'humour.
Ok.
Que je referais pas.
Tu referais pas. mais on va y arriver, mais je veux y aller par étapes, sinon je vais manquer des petites choses. Tu faisais beaucoup de dessins, tu pensais faire architecte à un moment donné parce que t'aimais le dessin, mais en soi, c'était plus parce que t'aimais le dessin que vraiment vouloir être architecte. T'as fait du cirque aussi, ça c'est pour la formation, c'est comme
ça. Fait du cirque au primaire, c'était mes premiers spectacles. C'était l'option cirque à mon école primaire.
Ok.
C'était une des premières écoles qui offraient ça, c'était les profs d'éduc qui étaient vraiment, vraiment cool. Luc et Liliane d'Horizon Soleil. Mais ils avaient créé vraiment un gros programme de cirque. Ils étaient super impliqués. Puis on faisait un spectacle, tous nos cours d'éducation physique à partir de troisième année. C'était juste du cirque. J'ai appris à jongler, faire du monocycle. On avait des trapèzes. Il y avait beaucoup, beaucoup de matériel. Puis il y avait toujours un prof ou un finissant de l'École nationale de cirque qui venait faire un numéro dans le spectacle. Fait que tu sais, j'ai comme été initié à ça, puis de donner un spectacle.
Ouais, donc le fait de vouloir être en spectacle était toujours un petit peu quand même... En tout cas, d'exprimer quelque chose devant un public.
Oui, mais tu sais, là, c'était pas des numéros solo, là. C'était vraiment en groupe, puis... Mais je pense que ça m'a aidé à comprendre un peu l'essence du spectacle, mais c'est loin, là.
Oui.
Je pense qu'une des choses que j'aimais, qui m'intriguait énormément, c'était le backstage. Okay. Je me rappelle aller voir des shows, puis être tellement intrigué par ce qui se passait derrière. On dirait que je voulais avoir accès à ça, je voulais comprendre comment ça se passait. J'étais plus impressionné par ça que le spectacle, des fois, en soi, là. Je me rappelle le feeling de... Un peu comme dans un dessin animé, quand des vieux dessins animés qu'on voyait juste les jambes des parents, mettons, je pense au Razmoquette.
Mm-hmm.
Je pense qu'on voyait très rarement les parents, puis là, t'es comme, je veux savoir c'est qui, c'est qui, comment les choses fonctionnent, m'a toujours intrigué.
Ok.
Là, je dérape, mais ça fait partie aussi de mon style d'humour de décortiquer beaucoup les choses pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent.
Mm-hmm.
Fait que ça m'a attiré. Ouais, fait que c'est ça, j'ai fait du cirque, puis j'ai enseigné le cirque après ça.
Ah oui?
Dans un camp de vacances de cirque.
Ok, ça camp de vacances, je l'avais. De cirque, j'avais pas l'information.
Ouais, j'ai fait ça. Faut j'avais mes bases déjà, à cause du primaire. Je travaillais là de 16 à... de 17 à 22.
Mais c'est au secondaire que t'as commencé à faire de l'improvisation, dans ton école de la polyvalente des Deux Montagnes.
Ouais.
T'as continué après au cégep au collège Lionel Groulx, où tu étudies en cinéma et communication.
Exact.
Mais c'est vraiment, donc tu l'as dit au cégep, que t'es devenu moins gêné et que t'as vraiment débloqué quelque chose en impro.
Ouais.
Quel type d'improvisateur t'étais? T'étais comment en impro?
J'étais plus constructeur que puncher.
Ok.
Je suis pas polyvalent en improvisation. Genre, j'ai arrêté d'en faire, puis je serais pas un atout essentiel à une équipe parce que tout ce qui est catégorie d'impro, c'était pas ma force.
Okay.
Et quand je parle à la manière des chanter, des danser, il y a pas de danser, mais j'étais pas bon, ça m'angoissait, je me regardais jouer.
Okay.
Beaucoup.
Préférais catégorie libre.
Catégorie libre, là, partir juste une situation, puis pousser ça le plus loin possible, ça, je tripais énormément. Fait que là-dedans, je construisais ou des catégories pour puncher. Soit des zapping, où est-ce que tu changes rapidement à chaque coup de sifflet de situation. Fait que c'était soit le punch ou la construction, mais j'aimais beaucoup, beaucoup la construction.
Et si tu devais recevoir une faute, c'est laquelle que tu recevais le plus?
C'était très rare que j'avais des pénalités.
OK.
C'était très... tellement... Justement, je pense que ça fait partie de mon côté très académique, là, qui veut respecter les règles et qui veut bien faire les choses. Fait que je pense pas, en 10 ans d'impro, je pense pas avoir eu 3 pénalités.
Ok.
Si j'en ai eu, c'était retard de jeu, mais retard de jeu, habituellement, ça s'applique à tout le monde sur la glace. Oui, c'était plus... l'impro qui était lente.
Oui, c'est plus un retard de jeu pour l'équipe que pour un joueur en particulier. C'est ça. Mais oui, moi je suis aussi très très académique, donc là-dessus, je pense qu'on a une similitude, mais les décrochages, moi.
Ah ouais?
J'avais du mal à ne pas rire.
Ok, mais t'en as fait de l'impro, toi aussi.
Oui, j'ai fait beaucoup d'impro. Okay. De mes 12 à mes 20 ans, j'ai fait de l'impro tout le temps.
On est la même personne.
Relativement. franchement, il y a beaucoup de similitudes.
Oh, oui, vraiment.
Il y en a quelques-unes. Mais le décrochage, oui. Moi, quand quelqu'un me fait rire, je...
Oui, décrochage, ça, c'est vrai, je l'avais. Ouais, ouais.
Ah, ok. Voilà. Ouais, ouais. J'ai réussi à trouver la faute.
Décrochage, c'est vrai que...
Mais il y a vraiment des gens, moi, ils me font rire. Et c'est vraiment la difficulté que j'avais en impro, c'est que... Je peux pas m'empêcher de rire, quoi. La situation est drôle, je ris.
Je comprends. Ouais, ouais, ouais.
J'ai une photo où je suis arbitre et où je pleure de rire. Parce que c'est une catégorie où tu dois lire les répliques.
Ok.
Répliques imposées. Donc, tu lis un dialogue de théâtre.
Ouais, pour partir de l'improvisation.
Pour partir de l'improvisation. Et l'autre personne, elle fait l'autre réplique, mais sans connaître le texte. Mais alors, ça part toujours dans des sujets complètement différents du thème de départ. Et je me pleurais de rire. Il y a vraiment une photo, on me voit pleurer de rire, incapable de lire ma prochaine. Parce que j'arrive pas à me retenir de rire. C'est aussi pour ça que je suis un bon membre du public. Quand je vais voir des spectacles de show, c'est que je ris fort, on m'entend, on me voit. J'étais voir Reda Saoui la semaine dernière, qui a dû s'arrêter pour me dire « on va le laisser finir ». Et c'était moi.
Ok. Mais là-dessus aussi, on se ressemble.
Ok.
Je suis quand même bon public. Là.
On va finir le podcast en se rendant compte qu'on est frères jumeaux.
Oui.
Et est-ce que l'impro, ça te manque parce que t'as arrêté d'en faire? Est-ce que des fois, t'as envie de remonter sur scène?
J'aime l'impro. En sortant de l'école de l'humour, j'avais fait une ligue qui est, je pense qu'elle n'existe plus, la Lila, l'Assomption. C'était de l'impro spectacle, où est-ce qu'il n'y avait pas de points. Il y avait des équipes, mais c'était des concepts à chaque spectacle. Puis les impros, c'était impro longue, impro courte. Il n'y avait pas de temps définitif. Puis ça, j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis en même temps, j'avais fait une autre ligue d'été qui était vraiment de l'impro match plus classique. Puis là, j'avais plus de fun. Le impro match, j'ai plus de plaisir là-dedans, l'espèce de compétition, le monde qui veut absolument shiner, il y a beaucoup de ça. Peut-être que le stand-up m'emmène ça, là, tu sais, j'ai ma dose de rire à moi.
C'est ça.
Fait que j'ai pas besoin, quand je vais faire de l'impro, c'est pour aller déconner entre amis puis genre s'amuser à pousser des histoires le plus loin possible. Fait que quelqu'un qui essaie de shiner, même dans mon équipe, genre j'avais fait quelqu'un qui était rude avec moi en comparé, j'étais comme ben non, là je me déplace un dimanche pour jouer dans un bar, pas pour me faire chier à me faire coq-bloquer par mon coéquipier, genre ouais. C'est juste pour que t'ailles une étoile pour que 20 personnes dans un bar te disent bravo. Genre, tout ça, là, cet aspect-là me fait chier. Puis j'avais rejoué aussi l'année passée, j'étais invité comme un match spécial dans une ligue, puis chantais encore la compétition. C'est une ligue d'été, c'est toutes des amis, puis c'était même pas ça comptait pas les pointages, c'était comme un tournoi d'une soirée, là. Mm-hmm. Puis je chantais du monde faire « Ah, voir qu'eux, ils ont passé, puis pas eux. » Hey, guys, là. » Cet aspect-là compétitif, je m'intéresse pas du tout. M'intéresse plus.
Et tu le ressens moins en humour?
Oui.
Tu ressens pas des fois qu'il y a cette compétition entre les humoristes aussi?
Il peut l'avoir. En fait, je pense qu'il l'a plus en début de carrière.
Qu'après?
Que, tu sais, on est beaucoup à vouloir faire ça. Mm-hmm. Il y a peu de place dans les soirées d'humour. Fait que je pense qu'il y a une petite compétition au début de vouloir faire sa place qui peut faire chier. Mais à un moment donné, quand t'as fait tes preuves un peu plus puis que t'es intégré dans le réseau, je la sens plus beaucoup, cette compétition-là. Puis, mais je sais pas si c'est à cause du niveau où je suis rendu. Ou si c'est les gens que je côtoie dans les loges, c'est-tu depuis la pandémie que ça a mis comme un frein à ça? Je sais pas qu'est-ce qui fait que je sens moins la compétition, mm-hmm. mais je la sens beaucoup, beaucoup moins depuis un
okay.
quelque temps.
Mais parce que moi, je la ressens dans les deux, en impro et en humour.
Ouais.
Mais en humour, la différence, c'est qu'on n'est pas tous en même temps sur scène, donc il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de prendre ton spotlight.
C'est ça.
Donc, c'est la différence. Je ouais. pense que ça, ce qu'on fait, que ça le ressent moins, mais tu entends des choses comme tu as dit de « Ah, je ne crois pas que lui est passé. »
Oui, oui, oui.
Tu entends ce genre de choses où des fois, il y a juste... C'est peut-être aussi pour ça que tu le ressens moins maintenant, que tu es à un autre niveau, c'est qu'il y a des soirées où ça se passe très bien pour quelqu'un et pas du tout pour l'autre.
Ouais.
Je pense que ça se passe moins quand les gens sont plus à un niveau plus haut où toutes les soirées se passent mieux.
Je pense que oui, ça emmène ça que ben, tout le monde fait sa job, tout le monde réussit bien.
Mm-hmm.
Là, après ça, c'est des styles différents, mais qui peuvent moins te parler. Mais oui, au début, je pense qu'il y en a plus de compétition, mais ouais.
Mais tu le ressens moins fort en humour qu'en impro.
Peut-être que je la comprends plus, la compétition en humour. Elle me faisait moins chier vu que je la comprends plus.
Mm-hmm.
C'est pas un hobby. C'est, tu sais, il y a un désir de vouloir faire ça.
Oui.
Il y a une espèce de truc de survie un peu, de vouloir sa place.
Ouais, tu joues ta vie, entre ta carrière, ouais. entre guillemets, à chaque show, même si c'est pas vraiment le cas, mais oui.
Ouais.
Plus, je comprends. Hein,
tandis sûr. Que l'impro, c'est ça, le monde joue comme c'était leur vie. Puis il y en a que c'est leur vie, puis c'est correct. C'est, je crache pas sur l'impro, là, ça m'a emmené énormément, puis c'est super. Super cool comme forme d'art puis de spectacle, mais c'est ça. Peut-être vu que je fais de l'humour puis je gagne ma vie avec ça, si je veux faire de l'impro, c'est vraiment comme hobby, là. Fait que j'ai pas le goût d'avoir ce feeling-là dans mon hobby.
Je comprends. Après le cégep, t'es allé à l'UQAM en design d'environnement.
Oui.
Donc tout ce qui touche à l'architecture et à l'urbanisme. Tu as fait une session, je crois.
Oui, une seule session.
Avant de faire les cours du soir à l'École nationale de l'humour,
ouais.
sous les conseils de Julien Lacroix.
Oui.
Il faut le mentionner parce que c'est le cas.
voilà, ouais, oui. ben, moment, on a voilà. le même âge depuis moi, puis on se connaissait de l'impro.
L'impro, vous faisiez des tournois ensemble.
C'est ça.
C'est ça.
Fait que c'était pas un ami proche, mais quand on se voyait, on se saluait. Là, on se connaissait. Fait que c'est ça.
C'est ça.
Il les avait faites. Il m'a dit quel cours prendre. J'ai pris les mêmes.
T'as pris quel cours?
C'était écriture 1. Okay. Puis.
Présentation de numéro?
Non. Truc. Création. Exploration.
Exploration du potentiel humoristique.
C'était pas comme ça que ça s'appelait.
Peut-être maintenant c'est l'appellation, mais.
C'était avec Mario Bélanger.
C'est oui.
C'était
c'est le cours que j'ai pris.
L'exploration de humoristique là.
C'est ça. Je pense que ça doit être la nouvelle, peut-être la nouvelle appellation. Okay. Mais moi, parce que moi, les deux cours que j'ai pris en septembre quand je suis arrivé, c'était présentation d'un numéro et exploration d'un potentiel humoristique avec Mario Bélanger.
Ok.
Pour le coup.
Bon, ça doit être... Je pense que c'était ce cours-là.
OK.
Puis c'est drôle parce que Julien m'avait dit « Tu vas voir, c'est un genre de cours bizarre que les 4-5 premiers cours, tu te demandes à quoi ça sert. » Puis à un moment donné, il y a un déclic. Puis j'avais vraiment vécu ça. Après un 4-5 cours, j'étais comme « Ah, OK, je vois à quoi ça sert. » Parce qu'au début, c'était un peu plus pour mettre tout le monde au même niveau de « Hey, on apprend à se laisser aller sur scène puis à déconner. » Mais avec l'impro, on l'avait déjà vécu. Tu sais, mm-hmm. Avec des pratiques, des ateliers d'impro, de faire des personnages ou d'avoir l'air de pas avoir peur du ridicule sur scène, j'étais capable. T'sais. Fait que les premiers cours, ça servait à ça. J'étais comme, ben, je suis plus loin que ça, là. Mais à un moment donné, j'ai ah, OK, ça, c'est pratique.
Mais est-ce que tu te rappelles du premier numéro que tu as écrit, premier numéro que tu as fait pendant ces cours-là? Je sais pas si vous aviez été jusque-là.
On n'avait pas fait de... As-tu fait un numéro? Il me semble que non. On présentait des trucs, mais je me rappelle que j'avais fait un personnage que c'était un gars qui faisait des vidéos sur YouTube, genre pour vendre des trucs chez lui. Okay. Il faisait des publicités Kijiji pour ses choses à lui. Mais je me rappelle de tout ça.
OK. Ça marche.
Ouais, ça ressemble à ça.
Mais tu te rappelles pas vraiment d'un numéro, t'as pas gardé quelque chose de ces cours-là que t'avais...
Je pense pas. Les cours du soir, je pense que j'ai rien gardé.
OK.
Mais après ça, ben je vais te laisser faire la suite
de mon histoire. Tu peux enchaîner la suite si tu veux. vas-y.
Ben, les cours du soir, c'était justement pour savoir... Comme en impro, je connaissais ma valeur de comme... OK, je me débrouille bien. Tu sais, j'étais pas le meilleur joueur d'impro, là, pas du tout. Je pense pas que j'étais voué à être le Louis Courchaîne ou Pierre-Luc Funk, là, j'étais pas là du tout en impro, mais ça allait, tu sais, j'étais une, deux classes en dessous, mettons. Mais en humour, j'avais aucune idée, c'était quoi mon potentiel, puis j'ai besoin de... Je suis pas assez fou dans ma tête pour aller essayer quelque chose sans savoir si j'ai un potentiel. Mm-hmm. Je serais jamais monté sur scène, faire du stand-up, pour la première fois sans l'école de l'humour.
T'aurais pas fait le gong show.
Non, jamais. Fait que j'étais allé tester pour voir si j'avais un potentiel. J'étais comme, OK, je m'en sors quand même bien d'un devoir au cours du soir. Fait que là, j'avais appliqué pour l'école officiellement. Et j'avais été refusé.
Ah!
Ouais!
Je savais pas
j'ai
ça.
J'ai été refusé pour le deuxième tour.
OK.
Mais, deux semaines plus tard, la dame de l'école m'a appelé jeudi matin 11h, je reçois un appel, il me dit c'est assez exceptionnel, il y a un Africain qui peut pas renouveler son visa, il peut pas être là dans 2 jours, tu peux-tu être là pour le stage? Oui. Fait que moi j'étais arrivé frais et dispo là, je venais d'avoir la nouvelle, fait que j'étais vraiment sur mon nuage quand j'étais arrivé à l'audition au stage, que ça a super bien été là. Genre je suis sorti de là, j'étais comme je l'ai. Okay. En toute humilité, je savais, ça avait bien été dans les ateliers d'impro, dans les ateliers d'écriture, mon numéro avait bien fonctionné. J'étais comme, ben, je vois pas pourquoi je serais pas pris, là.
Et est-ce que tu te rappelles de ton numéro d'audition?
Oui.
Tu l'as dit, t'avais un personnage?
J'avais un personnage.
Dis-nous tout.
C'était un, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais c'était un genre de nerd loser qui s'était fait laisser, puis qui décidait de faire des conférences sur la confiance en soi. C'est plein de patterns très classiques pour un premier numéro, là. Mais ça me permettait de finalement, tu sais, c'était des petits bits sur, je parlais de l'environnement, je parlais de l'argent, je parlais de, tu sais, c'était des petites conférences sur, c'était une conférence sur plein de sujets comme ça. Okay. Mais ma vision d'un loser, genre. Après ça, les blagues, ouf, je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus des blagues. Je suis désolé pour ça.
Il n'y a pas de problème, non, mais de toute façon, je ne m'attendais pas à ce que tu me refasses toutes les blagues de ton numéro.
J'avais un costume, là, je me rappelle.
Oh, voilà.
Ouais, tu sais, avec ta l'audition, puis devoir faire comme... parler avec les juges, puis aller derrière le rideau, me changer, revenir faire le numéro devant 3 personnes. J'avais eu 1 blanc, mais j'avais eu 4 rires.
Okay.
Je me rappelle que le monde disait... ça devrait pas, ça rit pas dans les auditions. Mm-hmm. Je suis comme, ok.
Mais c'est bon si il rit, ça c'est sûr.
Fait que le, okay. Au stage, tu refais le même numéro que t'as fait en audition.
Ouais, devant les autres qui ont été sélectionnés.
C'est ça.
Et après, t'as le stage.
Puis comme j'avais eu un blanc l'autre fois, j'avais juste à pas avoir de blanc, puis c'était meilleur.
C'est ça. <ouais.
rire> Fait que j'étais full bien positionné là, pour le stage.
Ok. Mais donc après, t'es sélectionné pour l'École nationale de l'humour. T'es
ouais, en 2013.
Ouais.
Rentre en 2013, il y a... Fuck, il y a 10 ans.
C'est ça. C'est vrai, 10 ans.
Il y a 10 ans.
T'en sortiras diplômé en 2015. Comment ça a été pris par ton entourage que tu fasses l'école?
Super bien, sauf mon père, à l'époque. C'était pas dramatique, là. Tu sais, on entend des histoires d'humoristes ou des auteurs ou des comédiens qui disent à leurs parents qu'ils vont faire ça, puis que c'est le gros drame, puis qu'il y a des tasses qui se pitchent. C'était pas ça, là. C'était juste mon père, il était comme...
Il était inquiet.
Ouais, tu sais... Avec beaucoup de recul, en fait, je comprends 100% toutes les réactions de mon père face à toutes mes décisions plus jeunes, mais c'était son insécurité face à ma réussite et de « je vais-tu réussir à avoir une belle vie? » T'sais, c'était très important pour lui qu'on ait une belle vie, fait qu'il a donné beaucoup de lui pour qu'on aille ça, fait que la moindre des choses, c'était qu'on aille ça aussi. Fait que quand je parlais des difficultés avec mon père... plus jeune, tu sais, c'était ça. Mettons, mon choix de programme au cégep, il était pas d'accord, ça a été un gros sujet de dispute.
Okay.
Après ça, mettons, quand j'ai décidé de partir en appartement, quand j'ai décidé à un moment donné de partir en voyage, c'était tout le temps genre, tu vas être dans la merde.
Mm-hmm.
L'école, ça a été un peu ça, mais j'avais déjà réussi à faire mes preuves avec les autres trucs qui pensaient que j'allais échouer. Fait que c'était pas si pire, puis à un moment donné, il savait pas exactement c'était quoi. Puis quand il a compris comment c'était qu'il y avait peu de gens qui étaient acceptés à l'école, j'ai pas le bon terme, là. C'est quoi déjà un programme
sélectif?
Non, il y a un autre terme que j'ai oublié, mais ça, là. Quand il a compris ça...
Est-ce que c'est ampleur qu'on devait utiliser tout à l'heure?
Ah non! Non. Non. C'est que ça aurait été bon, là? Ou pile poil, là? Non, quand il a compris, c'est ça, qu'il y avait peu de gens qui étaient acceptés sur le nombre de personnes qui faisaient leurs auditions, il a comme changé d'attitude. Puis là, après ça, quand il m'a vu de session en session améliorer, puis après ça, encore plus, quand j'ai sorti de l'école... Ça va très bien là, avec mon père, puis il est à l'aise avec mon choix. Là. C'est ça. Fait que ça n'a pas été un gros drame, mais il y a eu ça qui était... Là, tabarnak, Anthony, là, ça ne tente pas d'aller à l'université à la place. C'était très classique, ça, là, comme réaction.
Donc, comment tu décrirais ton expérience à l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que toi, tu le recommanderais?
Oui, je le recommanderais. Je l'ai fait jeune, de 20 à 22. Fait que... Moi, ça m'a apporté énormément sur le plan personnel.
Mm-hmm.
Mais je sais pas si j'étais allé dans un autre programme, ça m'aurait fait la même chose. Je pense que c'est des années charnières.
Mm-hmm.
Mais là, t'es tellement mis face à toi dans une école d'art que c'est des petites cohortes, on était 12, nous autres. T'es confronté à... Justement, moi, j'avais une vision très académique de l'école, mais... J'étais confronté à du monde qui avait un plan de carrière déjà très tracé devant eux puis qui niaisait pas. Là. C'était genre, je suis pas là pour avoir du fun, je suis là pour... Fait que j'ai été confronté à tout ça. Fait que pour moi, ça a été très, très challengeant. Je réalisais que, OK, non, c'est une école, mais c'est pas le même trip qu'une gang d'impro. Là.
Mm-hmm.
On n'est pas une équipe. T'sais, ma cohorte, il y avait quand même beaucoup de compétition. La cohorte était divisée un peu en deux, trois là, gangs. Okay. Je suis rentré, puis dès la première semaine, mon nuage s'est pété, puis c'était comme, ah, oh, on sera pas la nice cohorte fusionnelle.
Okay.
Je pense en deux ans, on n'a jamais eu une soirée les 12 ensemble. Il n'y a jamais eu ça. Là. Même en tournée, il n'y a pas eu une soirée dans un bar, tout le monde ensemble.
Okay.
Il n'y avait pas ça. Fait que ça, je trouvais ça un peu tough. Fait que c'était de naviguer là-dedans.
Mm-hmm.
À l'école, justement, j'avais 20 ans, mais il y avait du monde de... Il y avait Nick Audet qui avait 33. Qui, lui, est devenu un super bon ami.
Mm-hmm.
Puis, petite parenthèse, en sortant de l'école, je recroise les autres, puis c'est cool avec tout le monde.
Oui,
genre, c'est dans le contexte de l'école.
C'est pas une ambiance de « on va être les meilleurs amis du monde, on est là pour travailler ».
C'est ça.
Okay.
Mais c'est ça, à 20 ans, avec du monde de ma cohorte, la moyenne était de 24, mais t'avais du monde de 30 ans, puis t'avais du monde de mon âge.
Okay.
Mais beaucoup de monde de 26. J'étais vraiment des plus jeunes. Fait que pour moi, ça a été très formateur. Puis je le recommanderais autant pour ça, le faire jeune. Puis le faire, je le ferais là. Genre vouloir commencer l'humour, je le recommanderais à 30 ans de faire l'école. Parce que justement, à 30 ans, si tu décides de te lancer dans l'humour, c'est que tu sais ce que tu veux. Puis tu vas aller à l'école, puis si tu le fais de façon sérieuse, tu vas aller chercher tes outils là, que tu as besoin. Puis moi, je le conseillerais. Après ça, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui a déjà 2 ans d'expérience dans un bar, puis qui roule, puis qui a déjà du booking, puis qu'il y a des... Ben, peut-être pas, là. Moi, c'était vraiment quelqu'un qui sort de nulle part, là, puis qui a le goût de se lancer là-dedans, mais qui a pas les ressources, qui a pas les outils pour se booker, je le conseillerais.
Mais donc, dans ta cohorte, il y avait vraiment du beau monde.
Oui.
Comme notamment Roman Frécinet, ouais. Rosalie Vaillancourt, Nico Day, tu l'as dit, Anna Sasuna.
Ouais.
Tu disais en route vers mon premier gala que tu étais dans la bonne moyenne, mais que Roman et Rosalie sortaient vraiment du lot.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui a été dur pour toi de te sentir moins bon? Parce que ce côté compétitif dont on parlait tout à l'heure, mais de se rendre compte qu'on n'est pas les meilleurs de sa cohorte?
Non, ça me dérangeait pas parce que je savais. Ce qui me dérangeait, en fait, c'était ça. C'était à l'école, je voyais que finalement. Quand je parlais du côté académique et tout, je voyais que ceux qui rentraient plus fort avaient un peu plus de passes sur la palette au niveau des profs ou des. Tu sais, c'était pas équitable de genre, on est à l'école, fait qu'on reste dans un cadre scolaire de même chance à tout le monde. Mais en même temps, tu sais, mettons, c'était pour la tournée, il y avait des trucs qu'il y avait de plus, mettons. Mais il arrivait avec une shit de texte qu'il avait déjà emmené. Puis de sketch qu'ils avaient écrit. Fait qu'ils ont travaillé pour avoir les places qu'ils avaient, tu sais.
C'est ça.
Et ça, mon regard de petit gars de 22, j'étais comme, c'est bien plate qu'il y ait plus que nous. Mais ça me dérangeait pas de pas être le meilleur parce que je savais où j'en étais. Roman savait depuis tout jeune qu'il voulait faire ça. À 16 ans, il était parti de la France pour venir un été à Montréal à Juste pour rire. Sa tante a travaillé à Juste pour rire, puis il était bénévole sur les festivals. Il connaissait par cœur tout le Louis C.K. Tu sais, genre, un fan fini de stand-up. J'en étais pas là. J'étais comme, ouais, il est plus loin. Puis même humainement, tu sais, je l'ai souvent dit, mais s'il écrivait pas du stand-up à l'école, il écrivait de la poésie, sinon de la musique, sinon il était tout le temps en mode création. Tu sais. Ça, je l'avais pas. Tu sais. J'étais comme... Je peux pas être jaloux, je peux pas être en crise qu'il soit meilleur. Il est plus loin que moi.
C'est ça, oui.
À ce niveau-là. Rosalie, dès le jour 1, c'était très clair. Tu sais, son personnage était déjà bien défini. Ça fonctionnait. C'était. Fait que non, ça me dérangeait pas.
OK. Ben parce que je pense que ça peut être les deux. Enfin, moi, quand je vois des humoristes comme Roman Frécinet, rêve d'être lui, je suis un peu jaloux, envieux d'avoir son talent, et en même temps, je vais pas lui cracher dessus parce qu'il est meilleur. Il est juste impressionnant, donc je pense tu peux avoir une forme de jalousie, mais ça peut aussi te pousser à, ça peut aussi t'encourager, t'enthousiasmer. Moi, quand je vois un de ces spectacles, ou Roman Frécinet ou un autre, hein, j'ai souvent les deux réactions. Soit je me dis, c'est pas la peine, j'arriverai jamais à être aussi bon. Ou alors, c'est tellement bon, il faut que j'arrive à ce niveau-là.
Ouais.
Tu vois, il y a un peu les deux possibilités.
Je comprends.
Je sais pas, toi, si t'es plus dans un que dans
l'autre. Moi, ça me motive. Puis, je pense que...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je dirais, j'ai toujours su que mon, pas mon prime en termes de visibilité et de reconnaissance, mais mon prime de créatif, je pense que je suis pas encore à maturité à 100%. J'ai pas atteint ma maturité à 100% avec ce que j'aimerais proposer et ce que je propose encore. Je sens que j'ai pas fini d'évoluer. Fait que ça me dérange pas. Je sais que ça va arriver. Je sais que je continue à évoluer. Tant que je continue à évoluer, en fait, je suis à bonne place. Il y en a que ça prend moins de temps, genre arriver à maturité. Fait que non, ça me dérange pas du tout.
Ben tant mieux.
Ça me motive. Ouais, ça me motive plus qu'autre chose.
Mais comment s'est passé l'après-école? Parce que quand t'es à l'école, t'es un peu protégé, tranquille, tout se passe bien, t'es encadré. Puis après, on te lance un peu sur le marché de l'humour québécois. Comment t'as vécu ça? Le début de devoir se créer un nom, début de carrière et tout ça?
Le début, en fait, je pense, le fait d'avoir commencé jeune aussi, j'étais à l'aise de... j'avais pas eu une job d'adulte encore. Là. Mm-hmm. Genre, en sortant de l'école, j'avais le même rythme de vie qu'avant l'école. En termes de... j'avais 22. Là. Genre, ça me dérangeait pas de pas gagner beaucoup d'argent puis pas avoir un petit appart à deux. Puis, c'était zéro un problème. Fait que je me posais même pas la question de faire autre chose. Pour moi, ben, c'était ça. Ça va évoluer avec le temps. Fait que j'ai eu la chance... Ben, chaque époque, je suis pas une autre époque, là, mais chaque cohorte, chaque année, il y a des opportunités différentes. Moi, j'avais la chance que les open mic n'existaient pas encore. C'était juste des soirées de rodage qu'il y avait. Okay. Le niveau open mic n'existait pas. Les seuls open mic qu'il y avait, c'était les shows de fin de saison. C'était un party que l'animateur invitait ses amis à venir faire 5 minutes, pour au lieu de payer un cachet, il payait la brosse. Okay. C'était ça, la vision d'open mic avant. Fait que je suis sorti en 2015. Le bordel a ouvert en 2015. Au printemps 2015, puis l'open mic a commencé à l'automne 2015. Moi, j'ai eu le temps de faire un peu le tour des soirées d'humour dans ma première année avant que ce soit établi vraiment qu'il y ait comme une strat open mic. Mm-hmm. Fait que je me suis fait voir des bookers, je me suis fait voir un peu. C'était le temps où est-ce que encore on faisait pas vraiment de bars quand on était à l'école. Il y en avait très peu qui faisaient des bars. Fait que c'était encore un peu bien vu, ben c'est jamais mal vu là, mais de dire à un booker, j'ai fait l'école de l'humour.
Mm-hmm. Ça a plus de poids que ça l'a maintenant.
Je pense que oui.
Okay.
Aujourd'hui, même si ça reste
quand même quelque chose de, il fait l'école nationale de l'humour, les gens font, ah, il fait l'école nationale de l'humour, je vais peut-être le booker, mais ça a moins de poids que ça devait l'avoir avant.
C'est ça. Okay. Fait que ça a été ça. Petit à petit, je commençais à jouer un peu plus, puis ça allait quand même bien. Ça, au début, justement, vu que j'étais plus absurde, je clashais beaucoup. C'était bénéfique pour moi dans les soirées d'humour parce que je clashais avec les autres humoristes. J'avais un style plus funky, si on veut. Fait que dans une soirée qui a 6 humoristes, j'étais moins stand-up. Je sortais du lot un peu, fait que ça m'aidait, mais j'étais pas encore bon. Je me débrouillais, j'avais des rires, c'était le fun, c'était rafraîchissant, mais c'était pas bon. Je pétais pas tout, là, mais ça allait. J'avais mes rires, puis je créais pas de fret. J'en ai créé, là, c'est normal au début. Fait que ça m'a aidé, mais ça m'a nuit après ça quand je suis arrivé à prendre l'autre step de faire plus des 10-12 minutes. Le whoop, j'avais pas la force de jouer dans des corpos. On a des corpos en sortant de l'école. L'école nous book pendant 2 ans environ des petits corpos. Là, je me plantais solide.
Okay.
Parce que justement, là, il n'y a pas une soirée d'humour d'installer là, avec un animateur. Tu parles à des employés dans une usine sur leur heure de lunch là, pour Noël. Ils s'en crissent. Là.
Ouais. Et en plus, quand t'es en personnage pour connecter avec les gens...
C'était pénible.
Okay.
Fait que ça a été ça. Puis en sortant de l'école avec un gars avec qui j'ai fait l'école, on a parti une soirée d'humour. Moi, j'étais à la chronique. Puis ça m'a aidé énormément dans l'écriture. Le décrire un nouveau 8 minutes à chaque semaine, ça m'a obligé à plus être dans les liners puis pousser justement des sujets. Je me donnais le défi d'un sujet à chaque semaine. Fait que ça a vraiment débloqué mon écriture à ce niveau-là. Puis c'est là que je me suis plus trouvé sur scène. Puis après ça a juste été une progression.
OK. Et si tu revoyais tes premiers shows,
ouais,
quand tu sors de l'École nationale de l'humour, tes premiers shows dans les bars et tout ça, est-ce que tu te gongrais?
Je pense que oui. Ça dépend des shows, en fait. Ça dépend. J'ai des shows que je réussissais à être sur mon X. En fait, c'est ça. Je pense, à l'école, j'avais trouvé sensiblement mon... J'étais tombé quelques fois sur mon X, mais je le maîtrisais pas puis je le connaissais pas. Fait que c'était un peu du hasard quand je tombais dessus, mm-hmm, mais je savais que j'étais capable d'être dessus. J'avais le potentiel pour le trouver. Fait qu'il y a des soirées que j'étais sur mon X là, en sortant de l'école. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai eu d'autres bookings. Mais il y a d'autres soirées que je me plantais. Mais vu que j'avais déjà été sur mon X, c'est un petit milieu, ça se parle. Je sais pas comment ça se parlait de moi à l'interne, mais j'ai fini par toujours avoir un peu plus de bookings d'année en année. Ouais, ben il y a des choses, 100%, je me serais gagné, ça c'est sûr, sûr, sûr. Mais en même temps, c'est compliqué parce que le gagne, c'est un contexte spécial. On va gagner en fonction, vraiment, il y a des numéros que je gagne au gang show, mais que je gagnerais pas dans une soirée d'humour.
Okay.
Qui passerait bien. Mais dans un contexte de 3 minutes, que tu viens me présenter sensiblement ton meilleur 3 minutes,
oui,
ça se peut des fois que je gagne parce que tu fais 3 fois le même procédé, tu sais.
Oui,
ah, ça manque d'originalité. Mais ces mêmes blagues-là, étalées dans un 8 minutes, ça passe super bien.
Ça passerait mieux, oui. Ok, je comprends ce que tu veux dire.
Oui.
Ok. En juillet 2015, tu participes pour la première fois au festival ZooFest avec 3 shows. Le show des finissants de l'École nationale de l'humour, le 60 humoristes en 60 minutes, le 10 minutes de marde. Depuis, tu y as participé presque chaque année.
Ouais.
Je pense chaque année où le ZooFest s'est organisé. Qu'est-ce que t'aimes dans ce festival en particulier, puisque tu le refais récurrement? Récurrement, c'est un mot qui existe.
De façon récurrente, récurrentement, je sais pas, hein.
Ça sonne bien, moi, je trouve, récurrentement.
Je sais pas, tu trouves que ça sonne bien?
On va laisser le public décider.
c'est un festival qui... Ce que j'aime de ZooFest, c'était une plateforme pour, on dirait, juste montrer ce qu'on avait fait dans l'année. Puis d'aller payer des trips entre amis. Le moment des festivals, c'est le moment... C'est drôle comment, quand j'ai commencé l'humour, j'étais comme « Ah, c'est cool parce que justement, on fait notre propre horaire. » Puis j'étais tanné. J'ai tellement été académique que l'humour m'emmène de mettre ça de côté. Puis à un moment donné, ça m'a aidé à « fuck les balises » puis un peu plus trouver mon côté punk. Là, je veux pas m'approprier le style punk. Je suis zéro punk, là, mais briser un peu les codes, si on veut. Puis finalement, tu commences l'humour, tu fais « Ah ben non, on suit aussi le calendrier de la vie, là, genre tu commences à roder en automne pour pitcher au gala ou au festival l'hiver, puis t'as tes examens de fin d'année, c'est les festivals l'été, genre. Puis après ça, t'as une pause en août, puis ça repart. Tu sais, il y a un cycle à tout, fait que je suis comme, ah, finalement, on est pris dans une loupe quand même. Mais c'était un peu ça, là, c'était la façon d'aller faire des shows sans le stress de l'année. Je trouvais ça moins stressant, juste du plaisir, les festivals. Parce que justement, c'est du stock rodé. Là, tu vas pas avec du stock pas rodé. Ou si c'est du stock pas rodé, justement, c'est des shows concept ou est-ce que la prise de risque...
Mais comme le 10
minutes de marre, ouais,
ouais. Vous deviez faire un mauvais sketch avec une contrainte en plus.
Si ouais, ben ça, j'ai remplacé. J'ai été dans la dernière édition. On l'a fait 3 ans. C'était un projet avec Joe Guérin, Charles Deschamps, Philippe Audry, La Rue Saint-Jacques, Alban Jouvin, qui en fait plus, qui est un de nos très bons potes à Joe, Charles et moi, qui était dans leur cohorte, et Alexandre Bouchard, qui en fait plus non plus, qui a été mon coloc, puis qui était dans leur cohorte aussi. Puis, fait que c'est ça, j'ai remplacé pendant 2 ans, puis la dernière année, j'étais dans le concept quand on l'a fait au Minifest. Chaque humoriste, on pigeait quelqu'un, puis on lui donnait un thème imposé.
Okay.
Il fallait qu'il écrive un 10 minutes là-dessus. Moi, il fallait que j'écrive un 10 minutes sur les boîtes Kellogg's de céréales. Il y en a qui ont eu une destination sur un trajet de Google Maps. C'était vraiment des sujets de marde. Il fallait qu'on fasse 10 minutes. Et en plus, on pigeait une contrainte avant le début de notre numéro. Il y avait la contrainte de manger un melon d'eau complet pendant son numéro. Prendre un shooter à chaque fois qu'il y a un rire. Ça, je l'ai déjà pigé. Fait que le monde fait exprès dans la salle de rire. Ouais. Plein de défis cons. Là. Il y avait les Eckler que ça c'était drôle, mais ça aurait pas pu être un show complet là. C'était le public qui était des Eckler tout le long de ton numéro.
Ils l'ont fait le Eckler show aussi, il me semble, à un moment donné.
Oui, puis c'est ouais. Ça, c'est que ça vire cacophonique. C'est drôle, ouais. Un humoriste là, mais à un moment donné c'est plus tenable.
Ok.
Ça vire dans tous les sens.
Mais il y a Sad qui fait aussi une soirée contrainte comme ça. Il a fait ça toute cette année-ci. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai eu la contrainte que le public ne peut pas rire.
Ok.
Qui était une contrainte aussi pour le public.
Ouais.
Et si le public ne riait pas, ils recevaient un shooter. Et donc, ils étaient très contents de ne pas rire.
Ouais.
Mais c'est très dur de faire un sketch.
Oui.
Devant personne qui rit. Mais tu sais, en fait, tu n'arrives pas à savoir quelle est la partie de « c'est pas drôle ». Et la partie de « ils rient pas parce qu'ils peuvent pas rire ». Donc, c'est très perturbant. Mais c'était vraiment une chouette soirée au final parce que j'en ai joué.
Ouais.
Mais c'était très dur. Il y a eu des moments où... tu arrives au moment où tu as ta meilleure blague du sketch. Parce que je pense qu'il y a toujours une que tu trouves qui est un peu au-dessus du lot.
Ouais.
Et tu l'as fait et rien du tout.
Ça fait mal.
Pénible. Oui. Merci Sad qui m'a imposé du coup le thème.
Mais c'est cool comme soirée, ça doit être le fun.
Oui, la soirée d'après où j'ai refait le même sketch mais sans cette contrainte m'a semblé incroyable.
Waouh.
Parce que tu pars du principe que personne ne va rire.
Ouais.
Et là tu allais rire donc tu fais waouh, c'est beaucoup mieux que l'inverse.
Vraiment.
Mais oui, donc tu commences à faire des concepts pour te mettre un peu en difficulté aussi ou...
Oui. Je pense que c'était avec une... Se mettre en danger, mais...
S'amuser aussi.
C'était vraiment s'amuser, là. C'était... Il n'y avait pas de réelle réflexion, de... On avait une plateforme pour s'amuser, déconner, fait qu'on la prenait puis on le faisait. Okay. C'était... Puis je pense que c'était... Zoufest, c'était... Les premières années étaient encore plus ça. Ça a comme changé un peu. Ça a évolué, en fait. Mais mes premières années, c'était beaucoup ça, là. C'était... Aller faire une connerie. C'était de s'amuser. Et je me suis amusé.
Et tu t'es amusé. C'est le plus important. En 2015, la même année, t'as fait de la radio. T'as travaillé sur CISM. T'es devenu chroniqueur au Jeudi du Rire au Monte Cristo à Sainte-Thérèse. Mais aussi chroniqueur le samedi au Baron du Rire.
C'était le mardi au Baron Samedi.
Ah, pardon.
Le bar, c'était Baron. Mais Baron t'inquiète, samedi. Même quand ça existait, tout le monde se trompait. Là.
Ok,
t'as
ça
pas,
va.
Je le dis parce que Baron Samedi, je pense que c'est c'est dans la culture voodoo. C'est un personnage de la culture voodoo. Puis c'était un bar à thématique voodoo. Mais la soirée, c'était le samedi.
Ok.
C'était le mardi.
C'est mardi.
Ouais.
Au Baron Samedi. C'est déjà confondant au début.
Oui, oui, oui. C'était une soirée très exploratoire. Là. C'était une soirée qui avait en moyenne 7 personnes dans le public.
Ok.
Ouais.
Et est-ce que ça t'a fait du bien? Ça t'a permis de progresser en tant qu'humoriste? Ou...
Oui, ben oui, c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est là que j'écrivais mes chroniques, que j'ai développé mon écriture vraiment.
Ok.
Mon numéro que j'ai fait au prochain stand-up où je parle de la maison de mes parents. Que je dis que ma mère, c'est long quand elle raconte une histoire, puis finalement, je fais la même chose qu'elle,
ouais.
Qui est un numéro que je me fais parler le plus souvent. L'ébauche de ça a été écrite, là. Puis c'est drôle, ce numéro-là, je l'avais justement fait peut-être 4-5 fois cette année-là. Puis c'était un hit or miss. En fait, je pense j'avais pas la confiance et le delivery sur scène pour bien livrer ce que je voulais faire, vraiment. Fait que si j'étais dans bonne énergie, ça marchait, mais il manquait beaucoup de rythme encore. Puis je le ressortais à chaque année, 3-4 fois, puis j'étais comme « Ah, non ». Puis je l'ai ressorti finalement. C'est un numéro qui a été écrit sur 4 ans, mais qui a été moins rodé que beaucoup d'autres numéros.
Ok, ouais. Mais maintenant que t'as plus de confiance, plus d'aisance, t'arrives à mieux le vendre et
c'est ça.
Ça se passe mieux.
Puis il a été retravaillé et repunché, là.
Oui.
Mais l'idée de base avait été écrite à cette soirée-là.
Mais cette année-là, t'as aussi été en nomination dans le Gala de la Relève en humour pour tes dessins.
Oui.
Parce que t'avais fait aussi une série de vidéos avec les aventures de John, les folies d'Anthony, les dessins Sassé. Tu faisais pas mal d'humour avec les dessins, mais c'est quelque chose que tu ne fais plus trop.
Que je fais plus du tout,
plus
non.
Du tout.
Je l'ai fait... ça avait une petite répercussion, là, le monde du... Je m'en faisais parler un peu par mes proches, mais... Ça a jamais buzzé, je pense. J'étais vraiment pas bon aux médias sociaux. Je savais pas comment faire ça. Mais pendant un an, j'ai fait... Il me semble que c'était ça, là. À toutes les semaines, je faisais 10 dessins sur une thématique.
Mais qui sont plus disponibles. Je ne sais plus les voir.
Non. parce que c'était pour le blog Les Populaires que Samseer avait lancé.
OK.
C'est là que j'ai rencontré Samseer. Puis, fait que c'était avant qu'il fasse l'école de l'humour. Il y avait c'était un blog qui avait quand même bien fonctionné. Puis avant ça, j'étais sur Tumblr, mais il n'est plus disponible.
Non.
À un moment donné, j'avais réessayé d'en ressortir de mes meilleurs. Genre, j'étais curieux quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus de following, parce que j'ai pas un énorme following encore. Ça n'a jamais élevé vraiment. J'ai comme abandonné ça. Puis entre-temps, j'en ai vu beaucoup commencer à faire un peu la même chose. Je dis pas que j'ai été copié, là, mais j'ai rien inventé non plus de faire un dessin niaiseux. Puis,
Mais c'est devenu plus à la mode après.
Et... ouais. Il y en a beaucoup qui font comme des jeux de mots avec des images. J'en avais un peu, mais c'était vraiment très niaiseux. Il y a vraiment des gags que j'aimais. Mais c'est ça, je dessinais pas super bien, ça faisait partie du concept de dessiner sur Paint. Mais là, sensiblement le même concept a été refait avec des meilleurs dessins, puis plus de following. Je suis comme, ouais. C'est fini. Là.
T'as plus de fun à le faire.
C'est ça.
Mais c'est parce que c'est en vraiment faisant mes recherches que j'étais là, ah, mais il fait du dessin, il a fait des sketchs avec des dessins, j'en ai jamais vu aucun depuis.
Ouais, non, j'ai.
C'est pour ça, je me posais la question.
Mais je l'ai jamais fait sur scène. Je l'ai fait à l'école de l'humour à un moment donné.
OK.
En fait, quand on rentre le vendredi où on se fait comme initier la rentrée scolaire, faut faire un numéro de présentation d'une minute pour se présenter aux premières et aux deuxièmes années puis aux auteurs. Puis là, j'avais fait... C'est la première fois que je faisais ça. Je me présentais avec des dessins, puis c'était tous des dessins au Crayola, là, au crayon feutre.
Ouais, t'as fait le Draw My Life... Avant, je sais pas si tu connais c'était une trend à un moment donné sur YouTube où tu dessinais et on voyait un peu ta vie.
Ah, ok, je sais plus.
Tu l'as inventé, on te l'a repris.
Le dessin, c'était tout le temps moi, les mêmes quatre bonhommes, puis c'était ma famille, puis c'était comme ma famille en ski, ça c'est ma famille, mais comme c'était des photos de.
C'est ça, on a volé ton concept, je te tiens à te le dire.
Voilà.
Mais après, en 2016, t'as fait un 30-30 avec Mathieu Pepper, t'as animé une nouvelle soirée au collège de Nel Grou avec Charles Pellerin à la chronique, t'as animé les Mercredis Rires, c'est pas méchant, mais aussi tu es parti avec Alexandre Forêt faire des shows en France et en Belgique au Kings of Comedy Club, donc en première partie de Dan Gagnon, comme on disait tout à l'heure.
Ouais.
Comment tu décrirais cette expérience d'aller jouer en Europe pour la première fois au début de ta carrière?
Ben, c'était un voyage.
C'est un bon résumé.
C'était un voyage. Puis, je veux dire, ça. À la base, Alex Forêt puis moi, on avait le même gérant. Tu sais, c'est un bon pote, là. On se voit, puis j'ai du fun avec. C'est un bon gars de party, mais c'était pas un gérant. Je pense que ce serait un bon booker, mais il est plus dans le milieu de l'humour. Mais c'est un vendeur. Fait qu'il nous avait vendu des projets, tu sais.
Okay.
Puis ça avait bien fonctionné. Puis son idée, c'était de partir en France. Puis on va filmer ça. Puis ça va être une web-série, puis tout. C'était un nice trip. Je regrette pas, parce que c'était le fun. Là. J'ai eu du plaisir. Mais j'avais pas les reins assez solides pour aller jouer en France. Tu sais, j'étais allé cette année, encore une fois. J'ai joué, puis j'ai eu de la difficulté dans mes premiers shows, encore une fois. Fait qu'il y a 6 ans passés... j'ai eu encore plus de difficultés là, à jouer en France. Mais, tu vois, en Belgique, j'avais plus de facilité.
Yes.
J'ai eu beaucoup plus de plaisir au Kings que partout, toutes mes autres shows en France.
Okay.
Tu sais, j'ai pas fait 20 shows non plus, le fait. Mais je sentais que l'accueil était plus chaleureux de la part des Belges que les Parisiens.
Ça me fait toujours plaisir d'entendre ça. Mais est-ce que maintenant que tu y retournais avec Charles, t'as vu que le milieu du stand-up avait évolué?
Ouais, ça a évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. C'est assez fou. Genre, tu sais, il y a plus de retard avec ici là, ou avec nulle part ailleurs. Le stand-up est rendu très fort. Là.
OK. Mais est-ce que ça te tente de faire des shows en Europe ou
non.
Pas tant que ça?
Non. Pas y retourner, mais ça va plus être... Si je me fais inviter, genre sur des festivals ou okay. D'avoir des opportunités, oui, ça c'est sûr. Mais je le vois plus comme ah ben cool, ma job m'emmène à voyager. Mais c'est pas un désir d'aller percer en Europe.
Mais t'as pas envie de faire une carrière en Europe spécialement.
Non. Je suis bien ici. Ma famille, mes amis, j'aime ça. J'aime. Tu sais, je pense. J'ai pas aimé le rythme. Du stand-up à Paris. Là. En fait, vivre à Paris, je voudrais mourir. Là. Ça a aucun sens. Je comprends le cliché que les Parisiens sont chiants, je comprends pourquoi son chien, tout le monde se fait piler dessus constamment. T'es coincé, il y a tellement de monde. C'est stressant, là, comme vie.
Ben, moi,
c'est pas plaisant, c'est sûr, t'es à bout de nerfs à chaque minute de ta vie.
Ben, moi, cette année-ci, j'avais le choix, d'aller faire de l'humour un an dans un pays. Je pouvais aller à Paris, qui est à 2 heures de chez moi, ou aller à Montréal. Je me suis dit, Montréal.
Oui. Oui.
Paris, désolé pour le public parisien qui va écouter, mais ça me fait peur de l'extérieur. C'est sûrement beaucoup plus chouette une fois qu'on y vit, qu'on a ses repères, oui, qu'on connaît les gens, mais de l'extérieur, ça a l'air d'être tellement l'enfer que non. Tu vois.
Ben, j'ai fait des super belles rencontres. Mm-hmm. Là. J'ai eu du plaisir dans certains shows. Puis, le mode de vie parisien en ce moment, le stand-up est rendu populaire. Il y a beaucoup de soirées d'humour. Puis avant la pandémie, je faisais des soirées que je faisais 2-3 shows, 4 shows par soir. Depuis la pandémie, je fais plus ça. Puis là, d'y retourner, puis finalement, ils ont comme le même mode de vie que j'avais avant la pandémie, de gauler. J'ai plus cette énergie-là. Je trouvais que, en fait, pour moi, ça me servait même pas. De trop jouer à un moment donné sur scène, je tombe sur un mode automatique, puis j'ai plus de recul sur ce que je fais. Mais je pense au début, en début de carrière, c'est une bonne chose à faire, de jouer le plus possible pour gagner de l'expérience, puis se connaître sur scène. Mm-hmm. Mais à un moment donné, je trouve que ça sert, pour moi en tout cas, ça sert plus à rien de jouer tout le temps. Puis le rythme à Paris est ça. Là.
Okay.
Tout le monde courait tout le temps. Là. Arrivait au Comedy Club, puis revenait de 3 autres Comedy Club. Puis juste pour ça, je voudrais pas.
Mais vous avez fait le Gong Show en France.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez refaire, aller jouer en Europe, probablement en Belgique?
Oui.
Voilà.
Oui. Ça serait cool.
J'adorerais venir pouvoir revoir le Gong Show chez moi. Ça me ferait plaisir parce que là, je suis bientôt de retour en Belgique. Donc, ça me ferait plaisir de revoir le Gong Show au Kings of Comedy Club ou dans un autre Comedy Club parce qu'il y en a plusieurs maintenant. Donc, ce serait super chouette.
Tu sais, c'est pas un plan en termes de... On n'a pas de billets d'acheter puis on n'a pas checké pour des salles. Mais c'est un plan dans l'avenir rapproché. On veut retourner en Europe pour aller s'amuser. Mais encore là... C'est plus une vision d'aller triper que vraiment d'exporter le projet.
Okay, ouais.
Mais s'il y a des appels d'offres, on n'est pas fermé, là. Genre.
Voilà.
Mais c'est pas un plan encore pour comme monétiser le projet puis se faire connaître vraiment à l'international. Pas un plan rapproché, là.
OK. Mais en tout cas, si vous venez en Belgique, je viendrai voir. J'encouragerai les amis à venir participer au Gong Show. Je participerai, je ferai un troisième passage. Mais ça me ferait plaisir de le voir en Belgique.
Ah oui, ça serait cool. Puis le Kings, j'adore ça. Là.
Oui.
Où il est situé, c'est cool.
Ouais, en face d'un cimetière.
Oui, oui. Non, mais ce bout de ville-là est vraiment oui, le fun. Non, c'est vraiment étudiant aussi, je pense.
Oui, oui. Mais je connais pas beaucoup, je t'avoue. Okay. Moi, j'habite assez loin, mais j'adore le Kings. C'est un des bels endroits pour faire du stand-up.
Vraiment.
À Bruxelles. Il y en a de plus en plus et c'est vraiment cool. Des comedy clubs, il y en a plusieurs qui sont en création aussi en ce moment, donc ça va être chouette. Le milieu à Bruxelles va être vraiment cool, donc j'invite les humoristes qui écoutent, parce que le podcast est écouté par des humoristes, venez jouer à Bruxelles, il y a de la demande, il y a du
public.
Venez
au Gong Show.
Venez au Gong Show. Pour les humoristes québécois, venez au Gong Show aussi, bien sûr. Après, en juillet 2017, tu présentes le show Drôle avec Alexandre Forêt.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce show-là?
C'était un 30-30, c'était toutes les 30-30, c'était des prémices à mes heures, là. C'était vraiment, les 30-30, c'est une façon de se faire voir d'un festival par le milieu, un peu, puis juste comme, c'est ça, avoir du temps de scène, ça permet de, t'apprends énormément à faire une demi-heure versus 10 minutes, versus 5.
Format plus long,
ça t'aide énormément, fait que c'était une plateforme pour pouvoir s'améliorer, tu sais. Mais le show en soi, c'était 30 minutes de stand-up chacun.
Ouais, comme tu l'avais fait avec Mathieu Pepper et après avec Christine Morancy.
Ouais.
Après, tu participes à l'émission En route vers mon premier gala,
ouais,
qui est donc ta première expérience télé, il me semble.
Oui.
Quel souvenir tu gardes de l'émission?
C'était super cool. En fait, c'est ça, première expérience télé, fait de comprendre les rouages de la télé un peu plus, ça s'était super bien passé, vraiment, j'étais super content, là. En sortant de scène, je suis comme, ça a bien été, c'était un de mes plus gros shows, il y avait 400 personnes, tout avait bien été, j'avais pas passé en... Je pense que c'était déjà les demi-finales parce que c'était pas la même formule que les En route vers mon premier gala avant. C'était juste un retour, c'était sur le format web. Fait qu'il y avait pas de quart de finale. Je pense que c'était demi-finale. On envoyait notre sketch, notre numéro en vidéo. Il en prenait 16, je pense, en demi-finale. Puis il en gardait 4 en demi qui passaient au vote du public, si je me trompe pas. Puis t'avais le gagnant.
Mais moi, je me rappelle avoir vu ton extrait de En route vers mon premier gala, parce que moi, je regardais tous les trucs de Juste pour rire, les trucs de En route vers mon premier gala. Dès qu'il y avait un nouvel extrait, je le regardais. Donc je me rappelle avoir vu ton sketch.
Il y a 6 ans quand c'était sorti.
C'est ça. Okay. Vraiment. Sûrement avec un petit décalage de. Tu sais, le temps qu'ils se mettent sur YouTube.
Ouais.
Mais oui, je me rappelle. Il y a une blague que j'aime beaucoup, c'est la poignée de main secrète avec mon pénis. Je sais pas si tu te rappelles de cette blague, mais ça me fait rire. Cette blague est absurde et drôle. Ah, j'aime vraiment
bien.
C'est
juste con, là.
C'est con, mais quand j'ai vraiment. Ah, j'aime beaucoup cette blague. Vous irez voir, elle est disponible sur YouTube. C'est une des captations que tu as sur YouTube.
Ouais.
Donc,
ben, c'est ça. C'est un vieux numéro. Il y a un gag que j'utilise encore, reformulé, retravaillé, qui est rendu un petit gag d'intro, de présentation, tu sais. Mais c'est ça. Mais j'en garde vraiment un bon souvenir. C'était super cool de ça m'avait fait voir, là.
Et première expérience télé, est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait? Est-ce que tu étais encore quelqu'un de stressé à ce moment-là ou plus trop?
Je l'étais encore. Mais en fait, c'est ça. Ça m'a fait comprendre un peu plus la télévision, puis comprendre un peu plus le milieu. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis je regardais En route vers mon premier gala, je voyais les backstage, ils filmaient backstage, puis il y avait des extraits avec les humoristes, puis j'étais comme, aïe, ça doit être stressant, ça doit être fou d'être à cette place-là, puis d'aller passer à la télé, tu dois être stressé, puis tout. Mais quand ça arrive à ton tour, tu fais, c'est pas si stressant, parce que je suis pas floué par la télé ou je connais rien du milieu. Il est rodé, mon numéro, là. Mm-hmm. Chose que, tu sais, qui est pas dit nécessairement avant le numéro à la télé, mais comme le numéro, il était travaillé, puis je savais ce que je venais faire, puis j'étais à l'aise, puis c'était juste un gros show, tu sais. Fait que le stress, mais pas stressé tant que ça.
Oui, et tous les autres candidats, c'est des gens que tu fréquentes, que tu vois sur les plateaux.
C'est ça. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais sorti de l'école. Fait que, tu sais, je connaissais le monde, j'étais à l'aise. C'est sûr qu'il y a un stress, mais c'était pas... C'est ça, ça m'a changé le regard sur c'est quoi une captation télé.
Ah ouais, en 2007, t'as également écrit des jokes pour un autre humoriste, pour Gabriel Dalmeida Freitas, dans l'émission Occupation Double.
Ouais.
Est-ce que t'as aimé écrire pour d'autres? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire ou est-ce que c'est plus difficile?
Ben, tu sais, ça, c'était vraiment... J'étais comme ghostwriter, là. J'étais même pas dans le générique. C'était... c'est ça, il faisait des sketchs dans Occupation Double. Mm-hmm. Puis j'y envoyais des idées. C'était ça, mais c'était le fun. Ça me changeait de la routine. Mais c'est pas ce que je... Non, c'est pas vrai. C'est le fun. On dirait que c'est plus facile à écrire. C'est plus facile de me mettre au travail pour écrire pour d'autres. Parce que je dois quelque chose à l'autre. Fait que c'est plus facile de recevoir un texte puis le retravailler. Puis tu sais, avoir une commande, ça se fait super bien.
Okay.
Je trouve ça vraiment plus facile que d'écrire pour moi où est-ce que là je me casse la tête à qu'est-ce que je veux dire. Mm-hmm. Fait que là, c'est le fun.
Le choix est déjà fait, t'as plus qu'à le
rendre drôle. Fait que ça va. Ça, j'ai du plaisir là-dessus, mais c'est ça, c'était pas un giga contrat.
Non, mais c'était plus pour parler un petit peu du fait d'écrire pour les autres. Je sais pas si c'est quelque chose.
J'ai pas fait beaucoup, mais un de mes rêves, je me dis si un jour, mettons, la scène, ça fonctionne plus pour moi, puis j'aimerais être, genre, metteur en scène / script éditeur / coach pour quelqu'un. Okay. J'aimerais, genre, travailler one-on-one avec quelqu'un, là, puis comme, on va s'assurer à ce que, pas seulement ton show, mais que tu deviennes meilleur sur scène.
Il me semble que vous l'avez fait un petit peu avec des gens du Gong Show. Des fois, vous avez dit, oh, si tu veux, on va réécrire ensemble. Ou plus comme ça, plus pour dire, on va faire un petit atelier
un peu,
ensemble.
Mais tu sais, mettons, se faire engager par quelqu'un qui commence sa prod, tu sais, qui vraiment pour quelqu'un qui a déjà de l'expérience, mais pour l'emmener à le faire shiner encore plus. Je pense que je suis bon pour ça. J'ai un côté pédagogue. J'ai toujours travaillé dans l'éducation. J'ai coaché beaucoup dans différents domaines, fait que j'ai un regard assez analytique, puis je pense que c'est une de mes forces de comprendre comment changer des faiblesses, comment mm-hmm. travailler des faiblesses pour les autres. Fait que ça, j'aime, je serais full à l'aise de faire ça. Genre. J'aimerais ça, mais c'est un genre de métier qui n'existe pas.
Mm-hmm.
C'est tout... c'est ça. Mais c'est un mini petit truc. Je me dis, je me verrais faire ça dans le milieu. Travailler avec du monde que okay. les aider à s'améliorer.
Ben, s'il y a des gens intéressés qui veulent t'engager, qui écoutent le podcast...
Allez-y.
Pourquoi
allez-y.
Pas.
Allez-y. Mais... En ce moment, je le ferai pas. Je me concentre sur mes trucs. Okay, c'est vraiment dans l'optique où...
Ou si t'as moins d'opportunités pour toi...
Pour moi, ça me ferait plaisir d'être au service des autres.
Ben, si, dès que c'est le cas, allez-y.
Oui.
On a hâte. Yeah. Non, pas du tout. après, en janvier 2018, tu lances avec Joe Guérin, Samuel Tétrault et Manuel Lemieux.
Ouais.
Ça. Un nouveau projet télé web qui s'appelle Disparate Joe et compagnie.
Ouais.
Donc, c'est une saison de 12 épisodes de 28 minutes avec des entrevues et des sketchs qui sont complètement fous.
Ouais.
Il y a des sketchs, je n'ai pas compris. Je t'avoue, il y a des trucs complètement fous, il y a des trucs qui m'ont fait rire, des trucs que j'étais là. Quoi?
Il y a du malaise, il y a tout. En fait, c'est Joe qui vient de Beauharnois et qui est proche de Valleyfield puis de télécommunautaire de Châteauguay. Il a grandi proche de Châteauguay puis il a été engagé par la télécommunautaire de là-bas. Il s'est fait donner carte blanche. Fait qu'il nous a appelé en décembre, fin décembre, les trois. Il a fait « Hey, j'ai le goût, j'ai ça, j'ai une demi-heure de sketch à faire, embarquez-vous. » OK. Fait qu'on écrivait, écoute, ça avait aucun sens là, on écrivait 28 minutes par semaine, on écrivait la semaine, on partait de Montréal à 7h le matin, le vendredi, on allait tourner jusqu'à 5h, c'était monté puis mis en onde le mercredi suivant. Il y a juste, en fait, on a commencé, mettons, à mi-janvier, fait qu'on a eu 2 semaines où est-ce qu'on a pu tourner 2-3 fois semaine. Puis après ça, c'était à chaque semaine.
OK.
Parce que c'est ça. Ça tombait en onde, je pense, le 31 janvier. Vu qu'à partir de là, il n'y avait plus d'autre temps. L'équipe technique de là-bas, on avait juste 2 réalisateurs, puis on avait un décor, là, c'est tout.
OK, oui.
La petite salle avec 2 murs différents.
La porte verte.
Ouais, puis la cuisine. Genre, fait qu'on avait 1 rideau noir, 1 setup d'émission de télé communautaire, puis la cuisine du staff pour tourner des sketchs, puis le parking. C'était ça. Fait qu'on écrivait toute la semaine. On se voyait 3-4 fois semaine. Souvent, on écrivait le jeudi jusqu'à 3h du matin. On partait à 7h. On allait faire ça. Ça c'était trippant, mais justement, vu que c'est télé communautaire, il n'y a pas autant de publicité. Fait mm-hmm. qu'au lieu d'être du 22 minutes, c'est du 28 minutes.
Okay.
Et 6 minutes de télé à remplir, c'est énorme. Fait que c'est le 6 minutes qui fait en sorte qu'il y a des sketchs qui auraient dû durer 1 minute, puis qui dure 5 minutes, qui fait que c'est pas compréhensible ou c'est pas bon, ou ça ramène un autre côté très malaisant, mais très oui. drôle aussi.
Qui amplifie le malaise.
Ouais. Mais c'était vraiment, vraiment le fun, ça.
OK. Mais ça se voit quand tu en parles, t'as vraiment le sourire en reparlant.
Ouais. Hey, c'était trippant, là. Carte blanche, on a fait des trucs qui devraient jamais passer à la télé, là.
Oui.
Ça a tout passé à la télé.
Je confirme.
Puis on a retapé. Joe s'est tout retapé le montage pour tighter les choses, pour mettre ce qui était potable sur le web. Nos sketchs marchaient. Il y en a quelques sketchs qui ont buzzé sur Facebook. Mais ce qui me faisait vraiment le plus rire, c'était les côtés entrevues. C'était un peu à la Eric Andre. Mais tu sais, encore là, Eric Andre a rien inventé non plus. Là, faire In Between Two Ferns ou. Des entrevues malaisantes, faussement malaisantes, ça a déjà été fait.
Il y en a une qui est assez. Joe Guérin interview un drag queen.
Ouais.
C'est drôle, c'est très drôle. Ouais, très malaisant.
Mais c'est magique.
J'ai beaucoup aimé c'est celui qui m'a marqué le plus dans les entrevues.
Et ça, il y a vraiment un des sketchs, on l'a gardé, un des moments d'entrevue, c'était. On disait OK, coupé. Puis on gardait les caméras allumées. Puis le sketch, c'était « On tourne pas de sketch ». Mais à un moment donné, on fait de la merde, puis Joe continue à dire de la merde. Puis c'est l'invité qui est comme « Ça tombe-tu, là? » Puis on termine le segment à ce moment-là parce qu'il catch que la lumière de la caméra est allumée. Mais des trucs bien pétés, là. C'était trippant. Oui. On a pendu quelqu'un, on a... Christine Morancy se fait baiser par derrière avec un masque.
Voilà, il n'y a pas de bip dans ce podcast, mais...
Non, non. Ah oh, ouais.
OK. Ouais. Changement de sujet. En...
Christine était consentante dans le sketch. Consentante. Oui, oui,
c'était... Elle a accepté.
C'était voulu.
En 2018, tu as participé au Fringe Festival à Édimbourg.
Oui.
Oui. Ben oui. Oui. C'était venu d'où cette envie de jouer en anglais au Festival d'Édimbourg?
Je ne dois pas être le seul qui dit ça, mais tu ramènes des souvenirs que je suis comme « Ah, c'est cette année-là que j'ai fait ça. Ah oui, j'ai fait ça. » Quand tu as dit tantôt 2015, tu as fait 3 shows à Zoufet, je suis comme « Hein? »
Ça va, c'est l'idée du podcast, c'est bien.
Oui, oui, mais le Fringe, en fait, j'étais pas censé y aller. Je commençais à comprendre mon anxiété, puis je venais de voir une psy, puis ça allait mieux pendant mon été, puis j'étais comme, hey, je vais en profiter pour. Là, ça va bien. Je suis plus conscient. Je m'ai parti 3 semaines en voyage, tout seul, je l'avais jamais fait. Fait que j'étais allé au Royaume-Uni. J'étais allé 2 semaines à. En fait, 1 semaine à Londres. T'sais, mon but n'était pas d'aller faire des shows, c'était juste voyager. Je voulais aller à Édimbourg, j'étais déjà allé au secondaire, mais en sortie scolaire, genre en voyage scolaire, fait que tu vas juste visiter les lieux historiques, oui. C'est tout, là. C'était un peu plate comme voyage. Fait que je voulais y retourner, puis en bouquant mon voyage, j'avais pas pensé que c'était le Fringe. Puis c'est une fois là-bas, j'ai fait hey, « c'est vrai, il y a le Fringe », puis il y avait Virginie Fortin qui faisait son show là-bas, fait que j'y ai écrit, on se connaissait un peu. On est allé prendre un verre, elle m'a présenté, il y avait des Canadiens qui faisaient un show en anglais, Canadian Show, je sais plus trop. Puis on va dire, ah ben tu peux-tu faire un 10 demain? Je vais dire, ok. Fait que j'avais déjà joué 2 fois en anglais pour le fun. Mm-hmm. J'ai traduit vite mes blagues, ça a bien été, ils m'ont réinvité le lendemain. J'ai fait 3 petits shows, dont un dans une salle plus petite qu'ici, de karaoké. Une salle okay. privée de karaoké, avec devant 8 personnes.
Et donc tu peux dire que tu as fait le Fringe Festival.
Ouais.
Sympa.
C'était cool.
Parce que moi, c'est dans les projets, j'aimerais vraiment le faire.
T'es-tu déjà allé à Édimbourg?
Je suis déjà allé, mais comme toi, en mode touriste. Pour okay. aller. En fait, j'ai été voir les points principaux. J'étais fêté le Nouvel An là-bas.
Okay.
Ils ont plein de cérémonies pour le Nouvel An. Ils ont
mais c'est une des plus belles villes que j'ai vues de ma vie. Là. Ça n'a aucun sens. Puis le Fringe, c'est, je pense, c'est 4000 shows en un mois.
Je ne sais plus le nom, mais c'est.
Des venues, ce qu'ils appellent, les ouais. lieux où que les shows, il y en a dans. Pratiquement tous les locaux commerciaux.
Ouais, mais il y a même des gens qui ouvrent leur garage et font un ouais, show ouais. là-dedans tellement il y a de
tellement
demandes.
De spectacles d'humour, magie, danse, théâtre.
Ouais, art de la rue. Y a...
Ouais.
Ouais, j'adorerais le faire un jour.
C'est cool. C'est vraiment, vraiment le fun. Mmh.
Mais déjà, le faire en spectateur doit être vraiment chouette, mais si j'y vais, je veux jouer.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que moi, ici, je suis venu jouer dans les deux langues. Ça, c'est le gros avantage aussi de Montréal par rapport à Paris, même si je pense qu'il y a des shows en anglais aussi à Paris, mais qu'il y a énormément de shows en anglais, j'en ai bien profité aussi, donc j'aimerais bien faire ça.
Mais c'est magique, là, l'ambiance en plus pendant le festival, toutes les rues sont bondées de monde, c'est pour faire une image, ceux qui ne sont jamais allés puis qui sont de Montréal, c'est comme si tu vas dans le Vieux, prends la plus belle rue du Vieux Montréal, et c'est ça, partout. Rempli de monde puis de festivités partout. C'est magique.
Et cette même année-là, tu as joué ta première heure de show au Minifest qui s'appelle Une Joke en 60 minutes.
Ouais.
Tu l'as rejoué ensuite tous les samedis d'octobre à décembre au Zazbar.
Ouais.
Tous les samedis à 20h. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce show-là et du titre?
Une joke en 60 minutes, ouais, ben c'était parti justement, comme je disais tantôt, c'était cette année-là que j'avais écrit mon numéro sur ma maison.
Et que tu étendais.
Que j'étalais, puis j'étais comme. Puis je le faisais dans un peu le même procédé dans un autre numéro, puis j'étais comme, ah, ça pourrait être drôle sur 1 heure. Fait que j'avais pitché ça. Puis mon but, c'était vraiment d'écrire 1 heure de ça. Finalement, j'étais comme, quand même, ce soit bon aussi comme show, là. Genre. À un moment donné, ok, bravo l'exercice artistique, là.
Mais il faut que le public.
C'est ça. Fait que finalement, c'est ça. J'ai fait un melting pot de best-of, mais ça suivait, là. Tu sais, il y avait vraiment. C'était pas juste une suite de blagues qui ont pas rapport entre elles, là. C'était vraiment quand même bien ficelé. Je commençais, je pense, en disant je vais vous raconter la blague, puis finalement, je la racontais jamais. Je prenais toujours des détours jusqu'à la fin. Je faisais bon, fait que la blague. Puis la blague était bonne, mais pas excellente. Mm-hmm. Puis là, je pétais ma coche au public de « Voyons, tabarnak, vous riez pas plus, c'est excellent. »
Ok, d'accord.
Fait que c'était ça, le concept show.
C'est ça qui est drôle, c'est qu'on attend beaucoup pour une blague qui est pas incroyable au final, ça rajoute. Pour moi, je comprends l'idée de...
C'est ça.
Qu'il y a un petit « Bah quoi ? Ah, c'est tout ?» Et que le public soit en attente de, d'un truc plus gros, parce qu'il y a eu tellement un build-up important.
Mis énormément d'attente, puis... Fait que c'était ça le concept, puis je pétais ma coche à la fin. C'était le fun. Puis de le faire 10 fois, c'était comme un... Je me rappelle, j'avais appelé Michel Grenier parce que l'autoprod n'existait pas encore. Je pense qu'il y a comme Jay Dutamp qui avait commencé à faire de l'autoprod, mais Jay Dutamp était déjà Jay Dutamp quasiment. Comme aujourd'hui, fait que, t'sais, je savais que j'avais zéro sa notoriété. Fait que j'avais appelé Michel Grenier. « Qu'est-ce que t'en penses à la lure que je fasse ça? » Ben, ouais, essaye-le. Comme... Fait que, pour revenir, tantôt tu me demandais à ma sortie de l'école, une des choses que je faisais, j'avais pas peur de poser des questions. Le milieu, le monde est assez gentil, là. Genre Charles, avant que ce soit un ami, je l'avais rencontré à l'école, il était une cohorte avant moi. Mm-hmm. Puis comme il y avait le jockey, puis il était plus impliqué dans le milieu, je me gênais pas pour l'appeler ou y écrire quand j'avais une question de « Hey, tel cachet, ça a-tu l'allure? Hein? » Okay. Ou peu importe. Fait que ça, je le dirais aux gens, genre, devenez pas harcelant, là, genre, c'est pas parce que quelqu'un te répond à ta question que ça devient ton ami automatiquement, mm-hmm. puis écris-lui à tous les jours. Non. Ouais, je le dis par expérience, il y a des gens que ça peut arriver qui prennent la porte ouverte comme... qui s'approprient la porte là, une fois qu'elle est ouverte. Mais le monde est assez gentil là, dans le milieu, que ce soit des gérants, que ce soit des producteurs. Producteurs moins parce qu'ils sont moins dans le milieu. Là. J'ai pas leur numéro, mais les humoristes, là, tout le monde est prêt à aider. Quand pas avoir peur de poser des questions.
Ok.
Ce serait un conseil.
Non, c'est un bon conseil, vraiment. Moi, je m'en rends compte avec le podcast parce que des fois, je contacte des humoristes et je me dis, bon, ils vont jamais accepter. Et en fait, ils me font, bah si, c'est cool. Et je suis là, ah ouais? Bon, bah on le fait alors.
Ouais, ouais.
Donc, c'est...
La plupart du temps, ceux qui disent non, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps.
C'est ça. Vraiment. Non, la très, très grande majorité des humoristes que j'ai réussi à contacter et qui ont vu mon message m'ont dit oui.
Ouais.
Donc, c'était pas si dur que ça. Pour ceux qui veulent lancer un podcast, allez-y.
C'est ça.
Les humoristes sont des gens cool.
Habituellement.
Habituellement, oui. C'est vrai que c'est pas un truc à résumer. Tous les humoristes.
Non, c'est ça.
La majorité de ceux qui continuent. Oh, ouais, ça
devient. Depuis MeToo.
Qui ne sont pas sur la liste, mais qui. Oh là, voilà. Renseignez-vous sur les gens et après, demandez conseil. Après, pour les 30 ans de l'École nationale de l'humour, t'as fait des fuck you à Patrick Huard.
Ouais.
Et c'est dans cette, je crois que c'est cette vidéo-là que je t'ai vu pour la première fois et après que j'ai dû voir la. Parce que
okay.
Je me rappelle vraiment de ce numéro des fuck you à Patrick Huard parce que ça me faisait très.
Ah, c'était magique comme moment. C'était un de mes meilleurs moments sur scène. Puis la captation, il y a du montage, mais sur scène, ça a duré 3 minutes. Là. Puis 3 minutes, hilarité au Saint-Denis sans arrêt. Là. Ça a été. C'était fou comme moment. C'était tellement le fun. Puis Patrick Huard, c'était une belle découverte humainement. Là, que, c'était, on avait eu des répétitions. Mm-hmm. Puis c'est la première fois que je travaillais avec vraiment un pro. Puis c'était impressionnant à voir. Là. Ça change vraiment ça a changé ma vision sur des humoristes plus populaires. Mm-hmm. Des fois, on peut avoir des jugements de ouais, il fait juste de la télé. Blablabla. Puis de le voir travailler, tu fais. Ah, ok, c'est un calice de pro. Là. Je comprends parfaitement. Tight, précis, toutes ses suggestions étaient on point, pas juste pour moi, pour tout le monde. Tu sais, c'était un numéro qu'on faisait des fausses auditions pour rentrer à l'école de l'humour.
Qui était vraiment un chouette concept parce qu'il y a, plusieurs pépites là-dedans. Il y a,
Pierre-Yves Roy-Desmarais
qui avait son numéro qui est de Pinceau.
Pinceau, oui.
Très drôle aussi. Mais c'était vraiment un chouette concept et de voir Patrick...
C'est un concept que l'école de l'humour fait à chaque anniversaire. Font un... Je pense qu'ils l'ont fait pour un gros show, justement, bénéfice à 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans. Puis c'est un concept qu'ils refont à chaque année, justement, avec des juges différents. Puis, c'était vraiment le fun.
Mais voir Patrick Huard qui se prend des fuck you avec le sourire, je trouve que tout le concept est vraiment chouette.
Ouais.
Donc, félicitations pour ça.
J'avais même pas catché en le faisant. Moi, mon gag, c'était juste le gars qui comprend pas c'est quoi un roast.
Mm-hmm.
Moi, c'est ça qui me faisait rire. Puis qui est maladroit, puis fait juste des fuck you. Pour moi, c'était ça. Puis le monde me parlait, hey, c'est malade que t'aies fait des fuck you à Patrick Huard. Puis Patrick Huard est considéré baveux, puis... Ah, c'est vrai, le deuxième niveau est solide aussi, mais moi, le gag, c'était naïvement juste l'épée que c'est pas faire un roast. Là.
C'est ça.
Puis c'est le même que je le jouais, puis je pense pour ça que ça riait autant de...
Oui, mais c'est le premier fuck you, on s'y attend pas, et après, on se dit, ah ouais, il va continuer à en faire, et il y a la variété, le fait que tu l'assumes, puis le fait de voir Patrick Huard qui est là en mode... Bah, est-ce qu'il va juste me faire des fuck you?
Oh, ouais.
J'ai trouvé ça très bon. Et Phil Roy qui est éclaté aussi à côté, rajouter quelque chose, j'aime beaucoup. Après, en janvier 2019, t'as fait la script édition pour une série Addison Electronique.
Ouais, c'était comme un concept. Ça a déjà été fait, je pense, ailleurs, mais c'était une des premières fois au Québec que ça se faisait. C'était une web série publicitaire.
Mm-hmm.
Puis c'était Dave Morgan qui avait été engagé. Et avec Anthony Montreuil, c'était les deux personnages principaux. Puis il avait demandé à Dave d'écrire dessus, puis il avait pas le temps. Fait qu'il m'a demandé pour si ça me tentait. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis c'était vraiment cool. Là. C'était le fun à faire. C'est la première fois que j'écrivais plus de la fiction officiellement. Il y avait déjà les scripts de base, mais dans le fond, c'était le réal qui était aussi dans la boîte de prod, qui avait tout écrit la série, mais lui, il est plus anglophone, fait que c'était tout écrit en anglais. Mm-hmm. Puis ça manquait de punch, fait que moi, c'était de le retraduire, les mettre plus en québécois, que ça rentre bien en bouche de Dave puis d'Anto, et de repuncher le tout. Mais la structure était déjà là. Puis il m'avait engagé, après ça, j'avais écrit aussi des ébauches pour une saison 2, mais finalement, Addison n'était pas allé de l'avant avec la prod. Mm-hmm.
Mais est-ce que écrire pour de la fiction, faire de la script édition et tout ça, c'est quelque chose qui t'a plu et que tu te dis j'aimerais bien le refaire ou...
C'est super cool à faire, j'ai eu du gros fun, mais encore là, mettons, j'ai pas l'idée encore qui m'allume pour le faire par moi-même. T'sais, là, c'était cool, il y avait déjà un concept, ça se faisait bien de retravailler sur une idée.
Mm-hmm.
J'ai pas l'expertise et les connaissances de scénario pour partir from scratch vraiment d'une idée. Mm-hmm. En ce moment.
Okay.
Fait que j'ai comme pas fait mes classes là-dessus, mais c'est quelque chose qui... Tu sais, j'ai beaucoup de gags qui sont très visuels dans ma tête, ça ferait une solide scène, mais qui ferait pas un bon sketch. Ce serait une bonne scène dans un film, dans une série.
Mm-hmm.
Fait que je me dis un jour, à force de les accumuler, peut-être mettre ça dans...
Ok. Mais c'est pas une
dans autre. Une histoire, mais c'est pas en ce moment quelque chose qui me drive nécessairement. Je suis pas okay. Dans une idée en ce moment que je développe. Là.
Ça, mais tu fermes pas la porte.
Non,
peut-être plus tard de le faire. Ok. Après, en 2019, c'est ton deuxième show en 1000 dimensions.
Ouais.
Qui est élu meilleur show du Festival ZooFest.
Ouais.
Félicitations. Merci. Avec 4 ans de retard. Donc ce show-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'évolution du précédent?
C'était quand même un show assez différent. Il y avait, c'est ça, peut-être un 10-15 minutes que j'avais repris de l'autre, mais tu sais, pas tel quel. T'sais, c'était des idées de bits, mais retravaillées énormément. Des fois, c'était des thématiques que je poussais encore plus loin, puis j'étais comme, ben, je serais con de pas utiliser ce gag-là à ce moment-là que j'ai déjà.
Mm-hmm.
Fait que c'était ça, t'sais. Il y avait un 10-15 minutes de repris de l'autre, mais c'était assez une heure originale.
Okay. Celle-là. Et qu'est-ce qui fait que ce show-là en particulier a gagné le prix? Quelle était la force de ce show-là, tu dirais?
Je pense que il était quand même bien construit. C'était un show où je me présentais, puis rapidement je tombais dans. C'était très noir comme show.
Okay.
C'est de l'humour très noir, mais pas de trash. Je pense qu'il y avait beaucoup de sensibilité dans ce show-là. Je parlais de mon anxiété, puis je parlais de... j'ai mis fin à une relation amicale suite à des dénonciations de quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de l'humour. Mais j'ai parlé de ça, qui je pense qui est un point de vue intéressant, ben original, qu'on a peu entendu dans tout le Me Too, de comment mettre fin, genre les répercussions que ça a sur les victimes, que c'est eux les plus grandes victimes, c'est épouvantable ce qu'elles ont vécu. Là. Je ne suis pas comme après m'approprier le drame de ce que ces personnes peuvent vivre.
Mais c'était une réalité que j'avais vécue de comment dealer quand ton meilleur ami est dénoncé de source sûre. Et que ça a été un processus pendant comme 2 mois où...
C'est vrai que c'est vachement intéressant.
Je l'ai épaulé là-dedans, puis j'y avais dit « je peux pas t'aider parce que je suis pas étonné ». Genre, je l'avais jamais vu dépasser la limite, mais il y avait un problème d'alcool, puis je l'avais déjà averti. Nos amis proches, on y avait déjà dit de faire attention, puis on l'avait déjà sorti d'un bar en faisant comme « ok, t'es désagréable en ce moment
ouais. ».
Mais tu sais, on l'a vu s'approcher, mais après, s'il me dit « hey man, hier j'ai couché avec une fille », pour moi c'est « ah ben mon ami a eu du fun hier ». Tu sais, je sais pas moi ce qui s'est passé dans la chambre, comment ça s'est passé. Fait que c'est ça, j'y avais dit « je peux être là pour toi, mais je peux pas te backer, je peux pas te dire que c'est pas arrivé, tu black out sur l'alcool ». Fait que ça se peut que t'aies oublié que ce soit passé des affaires pas le fun. Puis tu vires désagréable quand t'es chaud. Fait que 1 plus 1, ça se peut très bien que ça donne 2. Là.
C'est ça, ouais.
Puis à un moment donné, j'avais eu quelqu'un qui m'en avait parlé de source sûre, d'un truc qui s'était passé. Puis je l'avais confronté là-dessus sans nommer la personne. Puis elle a fait « Hey, merci, t'es la claque d'en face qu'il me fallait. Ouais, t'as raison. » Finalement, le lendemain, il m'avait dit « Hey, laisse faire. J'aurais jamais dû t'en parler. Je sais que je suis pas dans le tort, puis à partir de ce moment-là, j'ai coupé les ponts. J'ai essayé de t'aider du mieux que je pouvais.
Okay.
Là, si tu veux pas t'aider là-dedans, ciao bye.
Ok.
Fait.
Mais donc, ouais, ça fait un sujet intéressant parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent.
C'est ça.
Mais ouais, je suis vraiment curieux de voir le show pour le coup parce que je trouve que le sujet est intéressant. Horrible.
Oui.
La situation, mais en même temps, j'aime quand on parle de sujets plus touchy.
C'est ça.
Donc, ça m'intéresserait de
voir je parlais de ça. Je l'ai jamais refait en dehors de ce show-là. L'avais rodé un peu dans les soirées d'humour, mais c'était tough à sortir juste en 10 minutes out of the blue.
Oui, il faut placer quelques petits contexte.
Puis le show était très bien construit pour emmener à ça, pour après ça, la finale suite à ce numéro-là. Je pense que c'est ça qui a mené à... C'est ça, j'allais dans des sujets très sensibles, mais avec sensibilité.
Ben, j'ai le goût de voir le show. Si t'as une captation, je la prends.
Je sais pas si j'ai une captation. Oui, je devrais avoir une captation.
Ben, franchement, je suis curieux de la voir. Après, en 2020, mais donc, comme tous les artistes, tu dois arrêter la scène.
Ouais.
Tu arrêtes ton métier pendant ce temps-là. Et puis, tu reprends de façon un peu...
Sporadique.
De temps en temps, il y a des scènes, de temps en temps, il n'y en a pas. Il y a la distanciation et tout ça. Comment t'as vécu un peu toute cette période de...
Super bien.
Super bien.
Sincèrement.
Non, mais moi, j'ai
quand
adoré.
Même très bien. Je pense que c'est arrivé au moment où j'avais besoin d'une pause sans le savoir. J'aurais mieux aimé continuer, là. Mais comme je disais tantôt que je roulais à 2 shows minimum pratiquement à tous les soirs, là ça a mis comme un frein à ça. Puis depuis le retour de la pandémie, j'ai comme d'arrêter des 3-4 mois, remonter sur scène, je réalisais que j'en perdais pas vraiment. Même que ça me permettait d'avoir un recul un peu plus sur ce que je faisais. Mm-hmm. Fait que ça a changé un peu mon regard sur ma méthode de travail. Moi, ça a été, somme toute, bénéfique. Puis j'étais en couple, mon couple allait bien, on habitait ensemble. Ça s'est terminé, mais pas dû à la pandémie. C'était pas le fait qu'on était confinés, c'était pas le fait pour d'autres raisons personnelles, mais c'était cool. Ça a bien été, sincèrement. J'étais pas en détresse.
Mm-hmm.
Je l'ai plus été à la fin, genre... 2000, mon moment le plus rough c'était l'hiver dernier, le décembre-janvier 2000, fin 2021,
okay.
Le dernier confinement. Là, on dirait, là c'était comme la fois de trop. Là j'étais comme, oh, j'ai plus les batteries pour revivre ça, mais ça a quand même bien été.
Et la reprise, le fait de reprendre la scène, là t'avais récupéré une envie de monter sur scène
Ouais, plus forte. Je trouve que j'étais meilleur sur scène, j'étais plus posé, où je savais plus qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'avais le goût de faire.
Et est-ce que j'ai entendu que t'avais pas écrit beaucoup.
Non.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui te stressait de se dire parce que moi je voyais, par exemple, je vais partir de moi, je voyais beaucoup de gens qui disaient j'ai écrit tel truc, j'ai pensé à ça, ça a changé beaucoup de choses. Et moi j'étais là, j'ai pas sur quoi écrire, j'arrive pas. Et moi, ça me stressait de me dire, à la rentrée, tout le monde va avoir fait plein de choses et moi, j'aurais regardé Friends encore une fois.
Ça me stressait un peu, mais en même temps, c'est ça, je voyais pas sur quoi écrire. Mm-hmm. Comme, mettons que je veux écrire un numéro sur aller à l'épicerie,
dans le gros pic de la pandémie, on savait même pas si ça allait être quoi aller à l'épicerie dans 10 ans. Genre, ça va-tu encore exister? Genre, tu sais, ça. Tout était en. On voyait ça comme si tout allait changer, là, les modes de vie allaient changer complètement. Mm-hmm. Comme il n'y a plus rien qui vaut de ce que je veux dire. Puis, c'est pas comme si. L'image que je donnais, c'est pas comme si j'avais eu un accident de char puis je suis privé de travailler pendant un an. Mais ça m'a fait vivre de quoi? De personnel qui est propre à moi. Là, je vis la même chose que tout le monde. C'est pas intéressant, là, d'aller. Okay. Fait que j'étais pas trop stressé. C'est pour ça que j'ai pas écrit. Je voyais pas que je pouvais écrire. Mais ça me stressait quand même. Il y a toujours la crainte quand j'ai une passe que j'écris moins, j'ai toujours la crainte de j'ai perdu ça, puis genre j'ai plus rien à dire. Puis au final, à un moment donné, je me redonne le kick d'écrire, puis je vais casser un nouveau 10 minutes, puis je fais « Ah non, ok, ah ça va, c'est pas excellent, là, mais genre, nice, ok, je l'ai pas perdu, là. »
Est-ce que t'as eu, dans ta carrière, parce que tu parlais un peu de doute, est-ce que t'as eu des moments où tu doutais d'être dans la bonne carrière, de dire « ça va marcher mes affaires de... » Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit « je vais arrêter l'humour, c'est... »
Non.
Non?
Non.
T'as jamais eu ce moment-là?
Jamais.
Moi non plus. J'ai jamais eu. Non, c'est faux.
Tu l'as eu?
Ouais, moi ça m'arrive. Okay. Moi ça m'arrive surtout dans les périodes où j'arrive pas à écrire, de me dire « ah en fait j'ai écrit tout ce que j'avais. »
Ok.
« Je vais plus écrire de nouvelles bonnes blagues. » Ça fait un moment que j'ai pas écrit une bonne blague, que je suis vraiment fier. Je me dis peut-être que j'ai écrit toutes les blagues que j'avais.
Ouais. Ça un peu, mais pour l'avoir vécu, c'est un cycle. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, ce cycle-là, je sais que ça revient. Fait que je l'ai déjà eu le moment d'anxiété face à ça. Mais maintenant, quand je l'ai, je me rappelle que je vais m'en ressortir plus fort. Là, ça a l'air très psychopop, là. C'est ça. On dirait que ça me stresse plus quand j'ai un moment plus de latence où je suis moins créatif. T'sais, c'est pas une courbe, là, c'est des paliers souvent. Fait que les premières marches, t'es montes plus vite. Puis à un moment donné, les marches sont juste plus longues. Le début d'une marche, c'est le fun. Puis là, à un moment donné, tu fais « Hey, je stagne. » Puis plus tu stagnes longtemps, plus c'est ça, tu oublies que c'est parce que tu approches de la marche. Là.
Ouais.
Fait que tu vas reprendre un autre bond dans pas long.
Ben, c'est un peu rassurant.
Ça fait plaisir d'être là pour toi.
Merci. Non, mais vraiment, parce que je trouve que c'est dur à un certain moment.
Oui. Je dis pas que c'était facile tout le long, là, mais j'ai jamais eu l'idée d'abandonner. Mais il y a des moments où je doutais de moi, puis j'étais pas fier, ou j'étais pas content, ou... 100%, là, puis ça revient. Mais justement, tu apprends à travailler avec ça, à un moment donné, avec le temps.
En septembre 2020, tu participes à l'émission Le Prochain Stand-Up,
ouais.
Où tu iras jusqu'à la demi-finale.
Ouais.
Pourquoi tu as eu envie de participer à cette émission? Parce que c'est quand même des conditions particulières. C'est devant un jury, tu es en compétition avec des collègues, il y avait la distanciation avec le public.
C'est une façon de se faire voir. Là. Genre, je pense avant, j'avais pas confiance en ce que je ferais. Nécessairement, je savais que j'étais pas à maturité. Comme j'ai dit tantôt aussi, je suis pas encore 100% à maturité, mais c'est vraiment plus clair ce que je propose, puis je suis à l'aise avec ce que je propose. Mm-hmm. Là, j'étais comme prêt à... Je suis comme, OK, ça fait longtemps que je travaille mon produit, je suis prêt à aller le présenter. Puis c'était une plateforme pour aller le présenter au public, puis au plus grand nombre, puis au jury, puis aux gens du milieu. Fait que je suis comme, ben c'est là, là. Genre, que ce soit concours ou non, je m'en foutais, là. J'étais juste... J'ai besoin d'une vitrine pour me faire voir, pour continuer. Parce que mon but, c'est pas d'être... Mon but, c'est d'être connu pour continuer à faire ça plus longtemps puis pouvoir le faire à plus haut niveau. Mais c'est pas le végétariat qui m'intéresse. Mm-hmm. Mais il y a une plateforme pour se faire connaître.
Il faut quand même faut remplir ça.
Il l'utiliser, là.
OK.
C'était vraiment ça.
Et est-ce que t'as vu une différence par rapport au following, aux gens qui ont vu l'émission?
Non.
Okay.
Justement, mon numéro où je parle de ma mère, je m'en fais beaucoup parler, mais c'était en plein pandémie. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui a regardé la première saison du Prochain Stand-Up parce que c'est le premier automne de pandémie, tout le monde était confiné, tout le monde regardait la télé, mais après, comme c'est la pandémie, j'ai pas pu surfer sur ce buzz-là.
Ouais, pour remplir ta salle et dire « Ah, j'ai un show dans c'est un ça. Mois, venez... »
Ça a passé un peu dans le beurre,
okay.
Mais ça m'a permis... Du milieu, je me suis fait voir. Quand tu fais un show télé, ben t'as les producteurs, t'as les diffuseurs, t'as toute l'équipe technique, t'as tout le milieu souvent qui regarde ça. Fait que ça m'a donné un stamp pis pour le milieu.
Okay, ouais.
Je l'ai senti, ça.
un peu comme ceux qui font le gong show, bah, à une mesure différente, mais j'ai fait le gong show, toi tu te dis bah, j'ai fait le prochain stand-up.
Ouais.
À ton niveau, ça serait un peu ton gong show.
Un peu, c'est ça.
Ok.
Puis ça a bien été, sauf la demi-finale, mais...
J'ai pas tout vu. J'ai vu ce qui était dit possible de voir.
C'est bien correct.
C'est bien correct. Ça marche. Mais depuis, on a pu te voir dans plusieurs émissions télé. Donc, il y avait le prochain stand-up, il y a le prochain stand-up classe 2 mètres, il y a D'un rire à l'autre, Trait d'humour, Roast Battle, le One Mini Show sur Comedia.
Ouais.
Est-ce que tu aimes faire de la télévision? Et est-ce que le fait d'en faire, tu vois une différence dans ton remplissage de salle, de les gens qui viennent te voir, ils t'ont vu à la télé ou...
C'est la télé, pas tant.
Ok.
C'est vraiment le gong show, pour vrai, qui je vois une différence. Là, je reviens du FHE en Abitibi. Puis là, je voyais une différence dans le rapport avec le public. Autant hors scène que sur scène, quand je monte sur scène, quand je me fais présenter. Pas juste au festival, mais dans des soirées d'humour. Un des animateurs du gong show, ça, je le sens par les réactions que « Ok, le monde sait c'est quoi. C'est okay. Je suis qui. » Fait que je vois une différence là. La télé, ça amène à une expérience de plus. C'est de jouer dans d'autres contextes. Tu sais, pour être meilleur en humour, c'est pas... oui, c'est d'écrire, oui, c'est de jouer, mais l'expérience, c'est juste d'avoir joué dans le plus de contextes possible. Ce qui fait en sorte que tu... C'est juste ça, de l'expérience. Fait que de jouer une première fois devant des caméras, ben la deuxième fois, j'étais meilleur parce que je comprenais comment gérer le stress. OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, de l'avoir fait plusieurs fois, ça m'a donné confiance dans mes autres shows aussi, parce que justement, quand tu fais un show ultra stressant, tes autres shows après, qui sont moins de grande envergure, sont beaucoup moins stressants, fait que ça t'emmène, c'est ça, une force de plus pour tes autres shows, fait que je pense que ça m'a juste aidé à m'améliorer. Jouer dans des conditions plus stressantes m'aide.
Mais je vais revenir sur l'émission Roast Battle, parce que je t'ai trouvé bon dedans. Mais moi, je suis un grand fan de roast. J'adore ça. C'est quelque chose qu'on a en commun. T'aimes beaucoup le roast. T'en as fait plusieurs. T'as aussi demandé à en avoir un pour tes 30 ans, qui est disponible sur le Patreon du Gong Show. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans dans le roast?
Le fait de pas se prendre au sérieux. C'est vraiment ça. Je comprends pas des gens qui sont susceptibles dans la vie. Je trouve que quelqu'un qui est susceptible se donne trop d'importance. Je pense que c'est un peu ça, c'est de rétablir les pouvoirs de force. Puis je trouve qu'un roast, je trouve ça important. Même, à un moment donné, c'est qu'on devient des personnalités publiques, pas juste des humoristes qui font un métier de scène, mais on devient des personnalités publiques. Puis là, je parle de moi, mais je parle de que ce soit n'importe qui, des roasts sur quelqu'un. Je trouve ça le fun de, justement, ça rétablit les pouvoirs de force, de comme, hey, t'es un humain comme nous.
Mm-hmm.
Puis je trouve même ça important à ce niveau-là. Fait que, ouais, je trouve ça le fun. Puis je trouve ça le fun de comment la personne va réussir à... C'est un défi d'écriture aussi. Comment tu vas réussir à dire quelque chose de mean tout en étant acceptable.
Ouais.
Et drôle.
Et il faut que ça soit aussi drôle que... Si c'est méchant, il faut que ça soit aussi drôle que c'est méchant.
Ouais.
Pour que ça soit pas plus méchant que c'est drôle, sinon c'est juste méchant, en fait.
Fait que c'est le défi d'écriture aussi que je trouve vraiment le fun à faire.
Ouais, j'adore ça.
Et à voir quelqu'un qui réussit à... Ouais, ouais. La mathématique de la joke est vraiment intéressante, je trouve, dans un roast.
Mais j'ai été voir ici au Minifest, ils ont fait un roast France-Québec.
Ouais.
J'ai tellement ri fort. J'adore ça.
C'est aussi, c'est ça. C'est que ça vient. L'humour noir ou le roast vient chercher, c'est des rires viscéraux, là. C'est des. C'est libérateur. Autant pour le public que la personne qui se fait roaster, que. Je trouve que c'est comme une espèce de moment que tout le monde vit ensemble. C'est des moments forts, là. Dans des shows live, les meilleurs roasts, c'est quand c'est pas capté.
Mm-hmm.
Parce que justement, il y a un laisser-aller, puis c'est genre, hey, on s'en fout, là. Genre, personne joue sa carrière, c'est juste, on déconne entre nous. Je le vois quasiment comme un rituel. Tout le monde ensemble, c'est comme une saignée, là. les rois qui se faisaient saigner pour régénérer leur sang.
C'est ça.
Je trouve que le roast emmène ça.
Mais dans le contexte d'un roast, j'adore ça. Je trouve que deux personnes qui sont mises d'accord sur « amuse-toi, il n'y a pas de limite, fais-toi plaisir, fais des blagues », c'est que des blagues. Parfait, ouais. J'adore ça.
Dans le contexte.
Dans ce contexte, dans le contexte d'un roast.
C'est le contexte est ultra important.
C'est ça.
Du monde, le monde est tellement pas bon, je trouve, puis maladroit sur Internet, justement, vu que je fais le gang show, puis je suis associé à des roasts. Le monde pense que je suis un fan tout le temps de roast et du oui. mot noir. Mais quand je lis ton commentaire, puis qu'il est 8h le matin, je suis en boxer sur mon sofa, puis je lis « Hey, vieille crise de pédale », puis tu penses que
c'est pas la même chose. Il n'y a pas le coup.
Ouais.
Puis il n'y a pas de ben, blague.
Là, ça, c'est vraiment une insulte. Ouais. Mais des fois, il y en a qui font des roasts, qui pensent qu'ils roastent. Là. Tu fais « Hey, man, je te connais pas. » Là, c'est un inconnu qui vient m'insulter. C'est juste ça. Là.
C'est ça que tu dis.
Je sais reconnaître quelqu'un qui est juste de mauvaise foi puis qui essaye de m'insulter, puis quelqu'un qui est maladroit. Okay. Non, le contexte est important. Hein.
Ouais. C'est ça ce que tu disais tout à l'heure avec le fait d'être susceptible. Moi, je suis quelqu'un de susceptible dans la vie, mais si c'est un contexte de roast, c'est avec des gens que j'aime qui veulent juste me faire des blagues, il n'y a plus aucune susceptibilité, vas-y.
Exact.
Amuse-toi.
C'est ça.
C'est limite, si tu vas pas assez loin, je suis là, je serai en mode.
Quoi?
C'est tout? Je pensais qu'on s'aimait plus que ça.
Ouais.
Ouais. Ok, ça va. On est d'accord là-dessus.
Oui, oui, oui.
Plus c'est méchant, plus c'est bien dans un roast.
Ouais, ouais, ouais. Voilà. Puis, ben, c'est comme un manège aussi. Se faire roaster, c'est le fun. t'es comme. Qu'est-ce qui va se passer? Tu oui. sais que tu vas recevoir un coup. T'es comme. En fait, c'est pas comme un manège, c'est comme. Coudonc, un genre de choc électrique, là. Quelqu'un ouais. qui te fait un prank.
Oui.
Mais tu sais
qu'il va arriver.
Tu sais que tu vas te faire pranker. Tu sais pas quand. C'est pas comment. Fait que t'es juste.
Ouais, c'est vraiment.
Le thrill et le fun. Là.
C'est comme une surprise. Pour moi, je le prends moi comme recevoir un cadeau
ouais.
de qu'est-ce que ça va être.
Exact.
Sur quel angle il va attaquer. Il va m'attaquer, je le sais. Qu'est-ce qu'il va utiliser.
Ouais, ouais, ouais. J'ai 100% ça.
Je comprends ça. Je vais terminer avec. En 2022, t'as fait ton premier gala juste pour rire.
Ouais.
Est-ce que tu l'as vécu comme une consécration de faire un gala juste pour rire et comment ça s'est passé dans les faits?
Tout le processus a bien été, mes auditions ont super bien été, j'étais content, j'étais confiant dans mon numéro, j'ai super bien livré mon numéro, je suis content de ce que j'ai livré. Par contre, ça n'a pas été à la hauteur, c'est un numéro où c'est un espèce de délire, puis toutes les fois que je l'avais fait, ce numéro-là, sincèrement, t'as 99% des fois, le monde embarque dans le délire. Il y a des blagues, mais c'est aussi une longue chaire sur une niaiserie. Puis là, j'ouvrais le gala, puis le numéro d'ouverture a été a pas explosé, tu sais. Puis c'est un numéro qui est moins stand-up classique. Puis je comprends tout pourquoi j'ai ouvert le gala. Je comprends 100%, c'est mon premier, tout le monde était expérimenté sur le gala, tout ça. Mais j'en parle sans amertume, là. J'en parle vraiment, mettons, mise en scène, ça aurait été mieux pour le show que je sois deux ou troisième
mm-hmm.
pour justement venir briser la forme du stand-up. Le monde a ri aux blagues, parce que les blagues sont bonnes, le numéro est rodé, mais il n'y a pas eu le délire qu'il y a habituellement. Fait que ça a été, mais je l'ai bien livré, genre je pouvais pas faire plus. Je l'ai vécu comme, c'est un beau stamp, là, vraiment dans le CV. C'est le fun. Dire que je n'ai fait, surtout qu'il n'y en a plus. Là. C'est la dernière année qu'il y avait des galas juste pour rire. Fait que ça, je suis super content de l'avoir fait. C'est ça que je regardais quand j'étais jeune.
Mm-hmm.
Mais tu sais, au final, j'ai été coupé pour la télé. Il est accessible sur le web. Mais tu sais, tout ça. Mais je suis à l'aise. C'est cool. Là. C'est okay.
Mais tu as fait un galas juste pour rire.
C'est ça.
C'est quand même
ouais.
tellement cool.
C'est
parce que pour le coup, encore une fois, on est exactement la même génération. Et je pense que. On a vu autant de galas juste pour rire, probablement l'un que l'autre. Et c'est le rêve, quoi. Enfin, moi, je rêve de faire un gala juste pour rire. Bon, maintenant, il n'y en aura pas. Donc ouais. là, je pourrais me dire, bon, bah, c'est pour ça que j'en ai pas fait. Mais d'ailleurs, je suis même un peu déçu, parce que c'est la première année que je suis à Montréal et il n'y aura pas de gala juste pour rire, en fait. Enfin, voilà. Mais donc, félicitations d'avoir fait un gala juste pour rire.
Merci, Régis.
Avec un peu de retard. J'ai deux questions pour terminer que je pose à chaque épisode. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour?
Ce que j'aime le plus, c'est la liberté que ça m'apporte là, sur scène. Le stand-up m'a emmené beaucoup personnellement, justement,
je l'ai frôlé, je l'ai effleuré tantôt, mais j'ai tellement toute ma vie suivi les règles, toujours voulu être le bon élève, mais le stand-up m'emmène à m'en foutre un peu plus, puis j'essaie de briser les règles, d'aller dans des sujets moins convenus, moins politically correct. J'essaie de jouer avec ça, puis ça m'aide à, dans ma vie personnelle aussi, à trouver un laisser-aller un peu plus. Mm-hmm. Ce que j'aime le moins, c'est autant c'est la liberté qui est le fun dans l'horaire, mais l'horaire fait en sorte que ça, c'est plus tough sur la vie personnelle de relations amoureuses. On a des horaires atypiques, relations familiales. Je suis pas aussi disponible que j'aimerais parce que justement, mettons autant des sorties. Si j'ai une soirée off puis ma blonde veut aller prendre un verre dans un bar, je suis comme, ah ouais, mais je suis dans un bar 5 fois semaine. Genre, la fois que je pense chaud, moi, je suis bien chez nous. Genre, c'est ça, ouais. Mais je veux faire des activités, mais tu sais, ça emmène un décalage sur la vie avec les amis hors humour puis mm-hmm. La famille. Ça, c'est le downside de je peux pas prévoir tant que ça. Dans 2 semaines, je m'en vais dans un chalet. Ou faut que je le prévoie vraiment d'avance pour le bloquer à mon horaire. Puis maintenant, je peux un peu plus, mais je suis quand même au dépend de s'il y a un contrat qui rentre vraiment intéressant. Ben non, désolé, je j'ai pas le choix d'aller faire mon contrat. Puis le souper avec tes parents, ben je peux pas.
Mais il y a le fait « je peux pas » et il y a aussi des fois de dire « j'ai vraiment le goût d'aller faire un 5 minutes ». À l'autre bout de la ville, juste parce que j'ai le goût d'essayer une blague, c'est vraiment important que je la teste. Donc il y a ça à faire comprendre aussi, donc c'est de la communication. Mais moi, ça m'arrive, oui, de d'être avec des amis et de dire ah bon, je vais pars parce que j'ai une scène.
C'est ça.
Et ils font ah, c'est dommage. Je fais ouais, mais oui, j'ai mais vraiment très envie d'aller faire cette scène quand même. Mais donc, oui, il faut arriver à le faire comprendre.
Fait que c'est, c'est le downside du milieu pour moi.
Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière?
Que ça continue d'évoluer. Que je continue à m'améliorer sur scène. C'est la seule chose que je veux, continuer à m'améliorer.
Ben, je te le souhaite. Normalement, ça devrait.
Ça devrait. Ça devrait.
Ça va. On va terminer avec le name-dropping. Je suis désolé, je prends toujours plus de temps que ce que j'avais prévu, donc je ne vais pas te laisser beaucoup de temps de réflexion. Mais
parfait.
Je vais te demander à chaque fois de me donner un nom d'humoriste pour chaque catégorie. Tu dois t'imiter à une seule personne. Donc, français, québécois, allemand, ce que tu veux, homme, femme.
Je suis prêt.
Peu importe. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré?
Le plus sympa? Corinne Côté.
OK. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Daniel Grenier.
Oh. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux?
Mike Birbiglia.
Oh. OK. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Vraiment, celui qui vend le mieux ses jokes.
Simon Gouache est vraiment, vraiment excellent là-dedans.
Très, très bon. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, dans le bon sens du terme.
Oui. Il m'a bien surpris. Tabarnouche, c'est une bonne question. On dirait que ça fait longtemps que j'ai vu un show, genre que... en même temps, j'en vois toutes les semaines, mais... Quelqu'un qui m'a le plus surpris dernièrement, qui m'a le plus... Hey, j'essaye, là, je me remémore vite tous mes shows que j'ai fait dernièrement, que j'ai vu du monde sur scène. L'humoriste qui m'a le plus surpris, étonné, impressionné. Je suis là, je suis avec toi. OK, je lâche pas.
Régis Canon à son deuxième gong show. Bon, merci.
Ah oui, voilà. Le plus étonné ou qui m'a étonné il y a le moins longtemps.
Le moins longtemps.
Dans le sens que ça fait.
Ça fait le plus récent.
Le plus récent, c'était hier un nouveau au gong show, Yann Olivier. Qui s'appelle, il m'a vraiment impressionné, il sortait de nulle part son 5e show, puis il y avait une aisance folle sur scène.
Okay,
puis c'était clair, il y avait une clarté dans son écriture, une précision, c'était vraiment impressionnant pour le peu de show qu'il y avait.
Ah, bravo lui. Maintenant, je vais demander de choisir entre 2 humoristes.
Okay.
Tu vas me dire lequel des 2 te fait le plus rire. Donc encore une fois, pour tous les auditeurs habituels, c'est pas pour dire que l'un est moins drôle que l'autre, c'est juste pour voir qu'est-ce qui, toi, te touche un petit peu plus et qu'est-ce qui te provoque le rire.
Je suis à l'écoute.
Ok. Entre Anthony Jeselnik et Jimmy Carr.
Ah, oh, tabarnak. C'est difficile. Jess Olnick me fait plus rire. Mais pour moi, les deux sont... J'y mets dans la même catégorie. Ouais. En fait, ben, je vais bien expliquer mon point. Jimmy Carr, me fait très peu rire. Il est très bon en roast, mais dans ses shows, je trouve que c'est 20 blagues convenues pour une bonne. Puis Jess Olnick, c'est souvent le même procédé. Là. Je l'ai vu au Fringe, j'allais le voir en show. Son dernier qui est sur Netflix, justement, je l'ai vu en live, puis il est impressionnant à voir sur scène. Là. C'est un pro, il est solide, là. Il monte sur scène, il a une prestance. Mais justement, à un moment donné, après 30 minutes, tu fais « Ouais, là, je le vois venir, là, le gag. Okay. » Je peux le finir dans ma tête parce que c'est trop tout le temps la même formule. Son ratio me fait plus rire. Il y a plus de gags qui me font rire. Voilà.
Ouais, je vais le voir à Just for Laugh dans deux semaines. Donc,
okay.
J'ai pas encore vu en show longue durée, donc j'ai hâte de voir. Jimmy Carr, je l'ai vu il y a deux semaines à l'Olympia.
C'était comment?
C'était très bon.
Ah
c'était
ouais?
Mais moi, je suis très client du style.
Ok.
Après, je suis d'accord qu'il y a des blagues plus convenues que d'autres, mais celles qui sont fortes sont très très fortes.
Sont très fortes. Mais je trouve que c'est beaucoup de miss. Mais le public a du fun. Genre, on dirait que son public voit pas les blagues convenues.
Ok. Mais moi, je trouve j'en ai peut-être moins convenu que toi. Mais okay. C'est un point de vue aussi.
Chaque opinion est moins valable que la mienne, mais
entre Frankie et Yannick DeMartino.
Frankie.
OK.
Frankie me fait plus rire. Et Yannick me fait bien rire aussi, là. Vraiment. Mais ça fait longtemps que j'ai vu Yannick sur scène, je dois dire.
Entre Simon Gouache et Daniel Grenier.
Daniel Grenier.
Entre Alexandre Forêt et Colin Boudria.
Oh. Ça fait longtemps que j'ai vu Alex Forêt, mais je pense Colin.
Ça marche. Entre Rosalie Vaillancourt et Romane Frayssinet.
Rosalie.
OK. Entre Pascal Cameron et Christine Morancy.
Cameron.
Ça marche. Entre Charles Pellerin et Mathieu Pepper.
Charles Pellerin.
Et enfin, entre Charles Deschamps et Joe Guérin.
Je pense Joe Guérin.
OK. Ça marche. Et la dernière question que je pose à chaque épisode, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Même si le prochain épisode, c'est Reda Saoui.
OK.
Mais celui d'après.
Une bonne discussion là, sur la carrière de quelqu'un, puis je serais... Si tu réussis à avoir Simon Leblanc.
Simon Leblanc? OK.
Ça va. Il donne très peu d'entrevues.
Très peu d'entrevues.
Très, très peu. Mais c'est un de mes bons prefs, là. Il est très excellent.
Ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris les presque trois heures de ton temps pour répondre à mes questions. À chaque épisode, je me dis, il faut que j'arrête de dire presque trois heures de ton temps parce qu'il y a un peu de montage et les gens font, mais c'est pas trois heures en fait. Il faut que j'arrête de le faire. À chaque épisode, je me le dis, mais je n'apprends absolument pas de mes erreurs. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps. En plus, il fait très chaud. Je sais que tu es trempé comme moi et qu'on a hâte, c'est d'allumer le ventilateur. Mais donc, merci. Ça montre de l'implication dans cette interview et j'apprécie beaucoup.
Merci. Hey, merci. Puis bon retour. Tu pars dans pas long?
Dans 25 jours.
Fuck.
Ouais.
Ben, au plaisir. J'espère qu'on va.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck.
Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
On va se revoir?
Ben j'espère, oui. Je fais plus le gong show, mais on va se revoir, c'est sûr.
Cool.
Je vous verrai sur scène en tout cas.
Yeah!
Merci beaucoup!
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous!